Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Roten Régal. François Pinet,
Jérôme Roten.
17h59, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten Régal sur RMC, bien sûr, comme tous les vendredis. Mais pas comme tous les vendredis, parce que une fois de plus, mon équipe a un petit peu évolué. Il y a une sanction pour injure de la part de Jean-Louis Tour cette semaine, à mon égard et à l'égard de Jean-Michel Larquet aussi, qu'on va entendre dans deux secondes. Donc j'ai décidé de prendre un formidable adjoint qui a été rayonnant il y a quelques semaines, François Pinet. Salut François.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va?
Écoute, je savais pas que en cas d'injure, on ne pouvait plus revenir.
Et il a fauté, il est en faute. Et puis c'est surtout respect par rapport à notre ancêtre Jean-Michel Larquet avec nous. Salut Jean-Mi.
Il n'a pas le droit de dire. Il a pas le droit de dire zut. C'est pas possible. Non, c'est pas. On peut pas l'admettre.
Ah, toi, ça. Bonsoir. Il t'a traité de con et t'acceptes.
Non, non, pas dire ça,
Jean-Louis. Il a dit zut, tais-toi. Et je ne peux pas l'accepter. Salut François, salut Jérôme.
Il avait peut-être besoin d'un petit peu de vacances, parce que c'est vrai qu'après un Roten Régal, des
mais
fois,
oui,
c'est un peu compliqué.
Exactement, hein. On le titille, on lui souhaite de bien se reposer, parce qu'il a eu des premiers mois compliqués. Hein.
On l'embrasse bien sûr. Dans un instant, on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions qui nous offre un super PSG Bayern Munich. Et on vous attend bien sûr, supporters du PSG au 32-16, pour parler de cette affiche. Est-ce que le PSG a encore une chance? On en parle dans un instant. On sera aussi avec Paulo Breitner, notre spécialiste foot allemand, qui va nous dire si cette machine
déjà,
est imprenable. Gros débat aussi à venir à 18h30 entre toi, Jérôme, et Captain. Alors, je me souviens que tu avais été très dur avec Nasser Larguette, hein, Jérôme. Là, Captain trouve que tu t'enflammes un peu trop quand même pour Roré Sampaoli. Voilà,
c'est bizarre.
Michel, donc on en parlera.
C'est normal, François, pour quelqu'un, pour un Parisien qui a toujours rêvé de jouer à l'Olympique de Marseille.
C'est étonnant, ces critiques de la part de Jean-Michel sur tous les entraîneurs étrangers.
D'être sanctionné et d'aller me reposer vendredi prochain.
Autant, Jean-Michel, toi, bon, on en parlera tout à l'heure.
C'est vrai que je m'enflamme, moi. C'est vrai que je suis du style à m'enflammer, c'est vrai, c'est tout à fait mon style.
Et puis, Captain, on sera aussi à Marseille à 19h avec Flo Germain dans le multiplex de Roten Régal. C'est le rendez-vous qu'on a installé depuis le début de la saison. Ça marche bien, ce rendez-vous. On parlera aussi de la lutte pour le titre, évidemment, puisqu'il y a un choc entre Lyon et le PSG dimanche. On sera également à Lille avec Jean Baumel, à Bordeaux aussi, puisque Gasset laisse planer le suspense sur son avenir au club. Enfin, tout ça, ça
c'est
sera à partir de 19h. Exactement.
Il va plomber le club.
Tout de suite. Allez, on revient sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le PSG pas gâté au tirage.
Le Paris Saint-Germain qui va donc jouer le Bayern Munich en quart de finale de cette compétition. C'est, faut dire les choses, le pire tirage possible pour les Parisiens.
Pas bien quoi ? On ne mange pas ? Vous manquez d'appétit.
Ach. Lewandowski wäre die bessere Option gewesen. Jetzt kriegt den Ball nach Zuspiel von Tolisso.
Faut reconnaître que en termes de qualité de jeu, en termes de palmarès, en termes d'expérience et tout ce qu'on veut, c'est pas un bon tirage.
Ça n'est pas en se déprimant que l'on résout les problèmes. Il faut être optimiste. Je n'ai pas changé.
Voilà, vous connaissez la musique, hein.
Je suis toujours.
Captain, t'as connu, tu reconnais évidemment.
C'est pas Jacqueline Maillan, ça?
Ben c'est exactement. C'est dans Papy fait de la résistance.
C'est bien Jacqueline Maillan, non?
Avec Jacques Villeray qui chante. Voilà.
Ah, c'est Jacques Villeray?
Bah, dans Papy fait de la résistance. Tu te souviens pas?
Ah, d'accord, oui.
Voilà. Je crois que c'était Polo qui chantait.
Exactement. Le tirage, donc, effectué à midi, qui nous offre un remake de la dernière finale de la Ligue des Champions. Polo, on le retrouvera dans un instant, bien sûr.
Bien.
Le PSG qui ira à Munich le 7 avril. La date est tombée tout à l'heure. Hein, ça sera le 7 avril, mercredi 7 avril. Avant de recevoir au retour au parc le mardi 13 avril. Puisque le tableau entier a été tiré, on sait aussi que le vainqueur de cette rencontre affrontera le vainqueur du match entre Manchester City et Dortmund. Le PSG qui a hérité peut-être du pire tirage. Est-ce que le PSG a une chance, le 32-16, pour venir donner votre avis à Jérôme et à Captain? Jérôme, pire tirage, est-ce que le PSG a une chance?
Non, mais que ce soit le pire tirage, on est tous unanimes pour le dire. De toute façon, avant le cours, on aime s'amuser le meilleur tirage, le pire tirage, même si les joueurs n'aiment pas trop faire ça. Nous, aujourd'hui, les consultants ou les journalistes, on aime essayer de deviner les facilités, plus de facilités contre un adversaire et un peu plus dur, voire très très dur contre un autre. Et en l'occurrence, tout le monde était d'accord pour dire que le Bayern était l'équipe à éviter, parce qu'elle est championne d'Europe, parce que depuis le début de saison elle est aussi pas mal épargnée par les blessures, contrairement à beaucoup d'autres gros clubs. On a l'impression que physiquement les joueurs bavarois ne souffrent pas ou très peu par rapport au contexte, ce qui n'est pas du tout le cas de leur adversaire, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Saint-Germain et d'autres équipes. Hein. Il n'y a pas que le PSG qui souffre de ça depuis quelques semaines. Donc oui, pour tout ça, fait que la rencontre est très difficile pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, quand tu me parlais de chance, heureusement qu'il y a une chance. Et que pour moi, je pars du principe que sur un match élimination directe, du moins une double confrontation, avant le coup, c'est du 50-50.
Mais c'est pas sur un match, hein, justement. C'est sur deux matchs. C'est ça le problème.
Ouais, du moins, c'est sur une double confrontation, mais c'est du 50-50. Après, ce qui se passera après le premier match, eh ben, ça va varier, forcément. Il y aura plus de chances de se qualifier ou de se faire éliminer, suivant le résultat. Mais on peut pas imaginer comme ça, avant le coup, un scénario. Déjà, parce que le contexte, et comme je te disais, les Allemands sont aujourd'hui un petit peu protégés au niveau de ces blessures. On ne sait pas ce qui va arriver. Je ne leur souhaite pas. Hein. Mm. On ne sait pas ce qui va arriver dans maintenant un peu plus de 3 semaines. Le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. À l'inverse, ils vont, j'espère, récupérer des joueurs. Peut-être que des joueurs vont récupérer un niveau de forme digne de ce nom. Il y a plus d'interrogations, en effet, sur la qualité individuelle du PSG aujourd'hui dans cet état de forme, et aussi d'un point de vue collectif. Mais un PSG à la hauteur, comme ils l'ont été à Barcelone au Nou Camp, va poser des problèmes au Bayern Munich. Ça, c'est une certitude. Et si, en plus, sur le soir de ce match au Nou Camp, tu rajoutes Neymar, tu rajoutes Di Maria, je pense que les adversaires, en l'occurrence le Bayern Munich, seront pas très contents d'avoir ces joueurs-là face à eux.
Élément important. Donc, quand même, hein. PSG Lille, ça sera 4 jours avant, ça sera le 3 avril, quelques jours donc avant le quart de finale aller.
Par contre, en effet, j'aime pas ça, mais les clubs le font et le PSG l'a fait aussi, cette fameuse gestion des matchs d'avant. Ils jouent le titre aussi en championnat, je sais pas, là on parle avant le choc de ce week-end, parce qu'imaginez qu'ils perdent à Lyon, je pense que le titre va commencer à s'éloigner. Ouais. Donc peut-être ça aura pas le même effet, ce match contre Lille avant le match du Bayern, mais en effet, il faut pas qu'il y ait de gestion sur ce match-là, surtout pas. Ça serait la plus grosse connerie à faire de vouloir gérer un match en championnat où c'est important, quelques jours avant ce match de Ligue des Champions. Ça, c'est le meilleur moyen pour avoir des joueurs en demi-teinte au Bayern.
Captain, est-ce que tu es d'accord pour dire donc que c'est jouable, évidemment, pour le Paris Saint-Germain? Mais quand on voit le remake parce que c'est le remake de la finale de l'an dernier, bien sûr, remporté par le Bayern 1-0, on prend les deux équipes aujourd'hui. Est-ce que tu trouves que par rapport à cette finale, le PSG a progressé? Ce qui laisserait évidemment plus de chances pour se qualifier ensuite.
Progresser, alors je vais vite te répondre en parlant de. En parodiant un petit peu ce que disait Chirac, et quand tu as des emmerdes, ils volent en escadrille. Et là, voilà un match qui est compliqué, deux matchs qui sont compliqués. Et puis, quand tu n'as pas la bonne fortune, ça va jusqu'au bout. La bonne fortune eût été, éventuellement, si tu avais passé le Bayern Munich, de respirer peut-être le coup d'après en demi-finale. Mais là, le tirage au sort a réservé le parcours du combattant. Mais le Paris Saint-Germain va être avec une baïonnette pendant que les autres sont avec des fusils mitrailleurs. Parce que s'ils avaient la chance de passer le Bayern, derrière, éventuellement, tu te chopes City. Donc tu vois quand même que le parcours est compliqué. On va rester sur le Bayern. Le Paris Saint-Germain a aussi le gros handicap. Vous avez parlé du Lille-Paris Saint-Germain, ou du Paris Saint-Germain-Lille plutôt.
Oui, c'est Lille ou Paris Saint-Germain. PSG-Lille. PSG-Lille,
c'est
3
plutôt PSG-Lille. Ouais, vous pouvez parler de ce que l'on appelle pompeusement et bêtement la trêve internationale. C'est que la trêve internationale, c'est la trêve pour les moyens ou les pas bons. Mais pour les bons, c'est pas une trêve. Ça veut dire que les internationaux du Paris Saint-Germain, et ils sont nombreux, vont se retrouver encore au mastic.
Non, pas tous. Comment? Parce que là déjà, tous les Sud-Américains, ils n'y vont pas. Hein.
Exactement. Les matchs ont été.
Oui. Mais il y en a beaucoup à Paris.
Dans la Confédération Sud-Américaine.
Eh oui.
Il reste les autres.
Les autres, il y en a très peu à Paris, en fait. Hein. Parce que Mbappé, équipe Mbé.
Il y a Danilo avec le Portugal.
Il vaut mieux qu'il soit d'attaque contre le Bayern. Il vaut mieux qu'il soit d'attaque. Bon, et éventuellement. Bon, moi je trouve que c'est encore un handicap pour le Paris Saint-Germain. Et puis
c'est plus un handicap. Même... Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est plus un handicap pour les Allemands, Jean-Michel, quand même, sur la trêve internationale que tu parles. Les Allemands, eux, ils vont enchaîner les matchs. Le Bayern, la plupart sont focalisés sur ces matchs internationaux.
Ils ont Neuer, il ne court pas beaucoup. Hein.
Neuer,
il y a Kimmich.
Et Lewandowski, Kimmich, oui, Coman, Sané, ouais. Gnabry, Goretzka, Kimmich,
ils n'ont pas appelé.
Ah, vas-y, y a quasiment toute l'équipe.
Mais alors, la petite éclaircie, c'est que, effectivement, et peut-être que notre Julio Iglesias à nous, qui n'a pas du tout changé,
Paulo Breitner,
oui, c'est notre Julio Iglesias à nous. Moi, j'ai suivi le Bayern, là, ces temps-ci. J'ai le sentiment, parfois, qu'ils ont des trous d'air qu'ils n'avaient pas les années précédentes. Oui. Qu'ils sont toujours aussi dominateurs. Là, il y a pas de. Mais que parfois, ils sont en difficulté sur des matchs anonymes. Alors, Polo nous disait, bon, ils vont à Brême contre le Verderme, ils vont gagner et ils ont gagné facile. Mais parfois, on les a vus un petit peu en difficulté, contrairement aux autres années. Est-ce que c'est l'usure du pouvoir? J'en sais rien. Mais en tout cas, va-t-il confirmer ou infirmer?
On va en parler évidemment avec Polo dans un instant.
Attends, je te coupe François. Vas-y. Mais pour répondre à Jean-Michel, on peut regarder les faiblesses du Bayern, parce qu'il y en a en effet cette année dans la gestion de ces matchs. Les débuts de match sont souvent, et Polo va nous le confirmer, même s'ils reviennent en fin de match, très souvent ils renversent les résultats, mais ils se sont mis plein de fois en difficulté. Donc ça, il y a un coup à jouer. Et puis surtout côté PSG, ça dépend aussi, tout dépend à mon avis de Neymar.
Mais c'est pour ça que je reviens à ma question que je posais
à Neymar. Neymar en forme avec le PSG.
La référence.
Ça c'est l'Arlésienne, ça. Et là, parce que Neymar en forme, il faut déjà Neymar sur le terrain.
Jean-Michel, tu vas l'avoir, Neymar. Neymar, il est focalisé, bien sûr. Tu vois bien qu'il t'a manqué. Il t'a manqué sur la plupart des derniers matchs du PSG, tu le sens.
Pas sur le meilleur match du PSG.
Oui, mais le match retour, oui.
Oui, bon. C'est le meilleur match du PSG.
Match retour, oui.
Juste pour vous dire, pour revenir justement sur cette question, le PSG a-t-il progressé depuis cette finale? On a quand même une référence assez proche, c'est cette finale PSG-Bayern, où on a vu un Bayern quand même très dominateur par rapport au PSG. Le PSG est passé peut-être à côté de cette finale.
Mais
est-ce qu'ils ont progressé? Moi, j'en ai pas l'impression.
Ouais, mais sauf
donc
que
ça, moi j'ai pas vraiment de garantie par rapport à cette double confrontation.
Écoute, François, je sais pas pour t'envoyer dans les cordes, mais il faut pas comparer à ce match-là. Une finale reste une finale. Et Jean-Michel, il va pas me contredire. La préparation d'une finale, l'aspect psychologique sur juste un match comme ça, où tu sais pas ce qui va se passer, les scénarios. Rappelle-toi du scénario de la finale. Le PSG a les meilleures occasions.
C'est vrai.
En première mi-temps, ils sont pas ridicules, loin de là. Après, le Bayern méritait de gagner. Mais il faut pas revenir. Déjà, ça sera pas la même équipe en face. En face du Paris Saint-Germain, ça sera pas les mêmes 11 joueurs. Il y a un entraîneur qui est différent.
C'est là où François pose la question. Est-ce qu'actuellement le Paris Saint-Germain, là au mois d'avril, début avril, sera de 2021 sera meilleur que le Paris Saint-Germain?
Il faudra
de la finale de 2020.
Il faudra, Jean-Michel. Ouais. Mais encore une fois, pourquoi il faut
objectivement, ouais. Est-ce que c'est un Paris Saint-Germain qui, même si tu as le match de Barcelone, l'aller, et tu ne peux pas occulter le retour, est-ce que c'est un Paris Saint-Germain qui te semble plus apte à poser des problèmes au Bayern?
Tout dépendra de Neymar, tout dépendra aussi de la capacité à Mbappé de résister et surtout d'être performant et efficace, ce qu'il n'avait pas été en finale. Neymar avait pas été bon en finale, avait bien été pris. Est-ce que c'est par rapport au Bayern ou par rapport à lui, la préparation, la pression qui s'est mise, parce qu'il a beau être un des meilleurs joueurs du monde, il s'est certainement mis une pression incroyable sur cette finale, il est passé à côté, même lui il l'avait reconnu. Et puis surtout Verratti, parce que on l'oublie, mais Verratti au milieu de terrain, rappelez-vous dans l'état où il était à la finale à 8 à Lisbonne, où il était blessé.
Il était
il avait fait en sorte de revenir. Il était revenu en fin de match sur la demi-finale, il me semble.
Oui.
Mais derrière, si Verratti est en forme, si Neymar est en forme, je suis sûr que le PSG, il y aura une autre confrontation avec le Bayern.
Aujourd'hui, oui. Jérôme, je voudrais bien qu'ils soient tous en forme, mais tu as dit, si Neymar est en forme, si Verratti, ça veut dire qu'aujourd'hui,
ils y sont pas.
Certitude, elle est égale à zéro, quoi.
Mais ouais. Mais sauf que tu viens de le dire, à Barcelone, ils y étaient ensemble. Et à la grande surprise, et à ma grande surprise, de faire un tel match à Barcelone.
Verratti, à jouer avec deux ou trois infiltrations, ouais. Ça fait peur, quoi.
Ça fait peur, mais bon.
C'est ce qu'il nous a dit, hein.
S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et qu'il s'est accroché pour le faire. Et peut-être qu'il s'accrochera, lui, comme d'autres, pour être très performant, être à 100% le match à Munich. Et ça, c'est important. Et ça, même s'il y a des interrogations et des doutes, on peut aussi imaginer qu'ils arrivent à le faire à Munich.
Bien sûr, on peut tout imaginer. D'ailleurs, on en parlera avec Paulo Breitner dans un instant. On parlera également avec Sabri qui a fait le 32-16 avec vous. N'hésitez pas pour réagir à ce débat. Juste une petite statistique, Pochettino l'a joué une fois en tant qu'entraîneur contre le Bayern. C'était avec Tottenham. Il a perdu 7-2. C'était en octobre 2019.
Ouais, c'était pas la bonne tactique.
Voilà. Non, le 7e était hors jeu. C'est le 7e qui
est hors jeu. Allez, on continue à parler de ce tirage au sort pour le PSG. On vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC.
Roten Régal. François Pinet.
Jérôme Roten.
18h16, toujours dans Roten Régal. Allez, on continue, François, avec François Pinet, bien sûr, avec Jean-Michel Larquet. On continue de débriefer le tirage au sort de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc, ce choc contre le Bayern Munich.
Dans un instant, on aura Sabri au 32-16. On ira voir Polo aussi. Juste, je vous rappelle que dans 15 minutes, c'est l'élève contre le maître. Stop à l'inflammade, Jérôme. C'est ce que veut te dire, Captain, autour de Roré Sampaoli. Ouais. Donc, supporter de l'OM, ne manquez pas ce moment.
Ça avait dit Rudy Garcia, il n'aurait pas dit ça.
On accueille Polo. Salut, Polo.
Bonsoir mon cher Florent, bonsoir Florent. Tout le monde.
Très bien, moi, tu peux m'appeler Florent si tu veux.
Salut Polo.
Pourquoi est-ce que t'as appelé, ça restera.
Je sais pas, il n'y a pas de problème.
Mon cher François, autant
tu peux m'appeler comme tu veux. J'ai plus d'ego, il n'y a pas de problème. On va parler du Bayern Munich avec toi, bien sûr. On en parlait un peu avec Captain et avec Jérôme.
Vas-y, Jackie.
Ouais, allez, on y va. Est-ce qu'il y a des points faibles dans cette équipe du Bayern?
Plutôt Pascal Pro.
Il y en a plutôt, mais déjà, je voudrais enlever l'un de vos arguments, c'est le fameux match PSG-Lille, trois jours avant la rencontre du match.
Quatre jours, exactement.
Quatre jours, ouais,
contre le match. Oui, je sais ce que tu vas nous dire, parce que le Bayern, c'est pareil.
Sauf qu'ils vont à la psy pour le titre 2021. Ouais. Donc, s'ils perdent, le Leipzig redevient le sérieux candidat.
Je suis d'accord avec toi, Polo, parce qu'ils ont 4 points d'avance, alors que le PSG est pour l'instant derrière Lille.
Il faut voir aussi le calendrier. C'est important de regarder les calendriers. Le Bayern a aussi des matchs beaucoup plus compliqués par la suite. Ce qui est sûr, c'est que la presse allemande n'est pas tellement contente de ce tirage. Parce que je pense qu'il y a un énorme respect du PSG et surtout de la puissance offensive potentielle du club parisien. Et n'oublions pas que le PSG aussi, on a parlé un petit peu avec Jérôme à la télé, le PSG est un petit peu une bête noire du Bayern quand même. Hein. Historiquement, le PSG réussit bien au Bayern. Alors c'est souvent dans les phases de groupe, ils se sont affrontés une seule fois lors des matchs décisifs, c'était évidemment cette finale l'année dernière. Mais le PSG, on sent que c'est pas bon. Hein. La presse allemande, Bild en premier, parle de tirage intéressant mais difficile. Salihamidžić précise très clairement qu'il faudra un gros Bayern pour passer, donc ça, j'en suis intimement persuadé. C'est-à-dire que le Bayern ne peut pas être en mode Bundesliga, c'est-à-dire s'ils veulent passer le PSG, il faudra qu'il n'y ait un gros Bayern, comme il faudra évidemment que le PSG soit là sur les deux rencontres. Et ça, c'est très important. Ce que je vois, évidemment, c'est la puissance aussi du Bayern sur les ailes, qui est peut-être le problématique pour le PSG. C'est que je vois cette machine offensive qui peut marquer 3 buts, 4 buts à n'importe qui, mais je vois aussi un Bayern qui, Jean-Michel parlait qu'ils se sont baladés à Brême, et oui, sauf qu'ils se prennent un but à la fin. Alors c'est anecdotique parce que le Bayern menait 3-0, comme c'était anecdotique parce qu'ils sont déjà qualifiés contre la Lazio, mais ils se prennent toujours un but à un moment ou à un autre. Ils s'en sont pris 35 en Bundesliga en 25 journées. Lorsqu'on voit le parcours du Bayern de la dernière décennie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y a des espaces, donc il y a la possibilité théorique pour le PSG de marquer. Et encore une fois, ils ne rigolent pas sur ce Bayern, c'est-à-dire que certains évidemment espèrent une demi-finale Dortmund-Bayern évidemment, mais honnêtement on ne rigole pas.
Polo, pour se rapprocher un petit peu des mésaventures parisiennes, il me semble que dans sa saison, il y a une des équipes classées dans les bas-fonds du classement, du classement, qui est allé poser de gros problèmes au Bayern. Et je crois même que c'était à Munich.
C'est Bielefeld.
Ouais, il y a le 3-3. Alors, il y a les conditions climatiques qui étaient compliquées. Ils ont perdu des points contre des équipes évidemment comme ça. Il y a des moments en fait, tu vois, par exemple la défaite à Francfort, donc le 2-1. Francfort pendant la première mi-temps s'est mis au niveau du Bayern et ils ont eu une réussite exceptionnelle devant le but. Donc le Bayern n'a pas pu revenir. Et l'une des spécificités de ce Bayern 2020-2021, c'est qu'il encaisse souvent le premier but, pas systématiquement, mais souvent. Et donc derrière ça, fait que le Bayern doit faire des efforts pour revenir. Alors il y a des marges de manœuvre. Regardez le match contre Dortmund, le 4-2, ils étaient menés 2-0. On n'a pas bien compris pourquoi. Alors on va dire que le Bayern n'est pas là. Sauf que, ok, ils sont revenus parce qu'ils étaient meilleurs, notamment en seconde mi-temps contre Dortmund. Mais je ne sais pas si le Bayern peut se permettre, à domicile par exemple, d'être mené au bout d'un quart d'heure 2-0 contre le PSG. Ça me semble beaucoup plus compliqué. Donc voilà, tu as raison. On a un Bayern, paradoxalement, qui me semble plus fort que l'année dernière, parce que le 11 titulaire sera le même que la finale, mais Pavard sera là, alors que l'année dernière, il n'était pas là. Et vous aurez, si vous voulez, un banc qui me semble plus fort, parce qu'on peut remplacer les attaquants, les ailiers, notamment par Leroy Sané, parce qu'en défense centrale, vous avez quand même Lucas Hernandez, même s'il n'est pas titulaire, c'est un joker de luxe. Vous avez des choses comme ça. Donc moi, qui me semble important. Et n'oublions pas que l'année dernière, Thiago Alcantara avait été titularisé, puisque Kimmich avait été repoussé sur le poste d'arrière droit. Ça va pas être du tout la même tactique. Le milieu de terrain, moi, m'impressionne évidemment Kimmich, Goretzka.
Kimmich,
Müller devant avec Lewandowski, les ailiers c'est Coman évidemment
et Gnabry, ouais.
Et puis vous avez Davis à gauche, Pavard à droite et puis Boateng
en fait le truc pour l'eau, et tu l'as dit, mais c'est vrai que moi ce qui me gêne le plus aujourd'hui dans cette double confrontation d'un point de vue tactique, c'est en effet le point fort du Bayern reste le jeu sur les côtés. Ils ont des latéraux parce que même Pavard on peut le mettre dedans, et puis les joueurs de côté, ces doublettes sur les côtés, c'est vraiment hallucinant, ça va très vite, ça percute beaucoup, et c'est en effet, comme dit Jean-Michel, le gros point faible du Paris Saint-Germain, les latéraux. Florenzi est un bon contre-attaquant, mais pas un grand défenseur. De l'autre côté,
tu peux ajouter celui qui est devant Florenzi, et tu peux ajouter celui qui est normalement devant Kurzawa.
C'est pour ça que contrairement au Bayern, qui ne s'adaptera pas au PSG, et Polo, on en a parlé tout à l'heure, il le disait, et le Bayern, on sait que ça va être du 4-2-3-1. Ça, il y a pas de souci. Côté PSG, en effet, sur le match à Munich, il y aura certainement une adaptation tactique. Un peu ce qu'ils ont fait à Barcelone. C'est pas le même profil d'équipe entre Barcelone et le Bayern Munich. C'est pas une équipe forcément qui aime la possession. Ça va beaucoup plus vite vers l'avant et ça développe très vite sur les côtés. Par contre, vu que les latéraux, c'est le point faible.
Il y a une puissance que n'ont pas les Catalans.
Ouais, mais ça va. Il y a plus de vitesse, plus de percussion, et surtout, à part Messi. Mais surtout, je pense que le PSG devra s'inspirer de ce qu'ils ont fait de très bien au Nou Camp. On pouvait dire que le Barcelone était faible, mais c'est surtout parce qu'ils ont très bien défendu sur les côtés. Rappelle-toi le travail de Verratti d'un côté, de Gueye de l'autre, qui venait aider, le travail de Keane aussi, parce que Jean-Michel, tu me parlais de Di Maria et de Mbappé, mais Keane avait fait un gros travail là-bas. Et ben, il faudra s'inspirer de ça, oui, pour résister, parce que dans un premier temps, là-bas à Munich. Oui, bien sûr qu'offensivement, le PSG est capable, contre n'importe quelle équipe, quant à ces joueurs-là, de marquer des buts. Mais il va falloir être très solide.
Exactement. 19 matchs sans défaite de suite en Ligue des Champions, quand même, pour le Bayern Munich. La dernière défaite.
Flipper, hein, ça, tout
c'était
ça.
Il y a un an.
Il se rapproche de la défaite. Il se rapproche forcément de.
Sabri a fait le 32-16 à 18h23. On l'accueille dans Rotten Régal. Salut Sabri.
Salut l'équipe.
Salut Sabri.
Je vous entends parler depuis tout à l'heure, mais Jérôme, que je kiffe. Hein,
heureusement.
me nous dit si Mbappé et Neymar sont en forme. J'ai peur en fait de revoir le même PSG que l'année dernière. Excusez-moi du terme, mais FC Neymar, FC Mbappé. Moi, je pense que si tous les joueurs sont en forme, on peut faire quelque chose contre le Bayern. C'est pas Polo qui dira le contraire. Moi, honnêtement, en Europe, une autre équipe que j'aime suivre, c'est le Bayern. Et je ne les ai jamais sentis aussi sereins et aussi forts que ces deux dernières années en Ligue des Champions. Jérôme, tu parlais du 4-1 au Camp Nou. On en parle du 7-2 que le Bayern a mis au Barça. Et pourtant, pour moi, le Barça, ça fait 3 ans qu'ils sont malades. Il ne faut pas qu'on prenne en compte ce match-là.
T'es obligé de le prendre en compte, Sabri. Aujourd'hui, le PSG et on est d'accord, et je suis premier à le dire, que le PSG est souvent très décevant sur les gros matchs. depuis le début de l'année. Je vais même pas remonter avant parce que ça sert à rien. Mais depuis le début de l'année, en effet, on peut se poser beaucoup de questions d'un point de vue physique, d'un point de vue aussi. Comment ?
Il les a perdus, les gros matchs.
En plus, oui. Et allez, le seul gros match où ils ont été à la hauteur, on les attendait au tournant, ils ont été même surprenants. C'était le match à Barcelone. Donc, on va arrêter de dire que Barcelone était très faible parce qu'au retour, Barcelone était très bon. Donc, s'ils ont été très faibles trois semaines avant, c'est aussi parce que le PSG a été très bon. Voilà, il faut s'inspirer de là-dessus.
Non, mais Jérôme, le PSG choisit ses matchs. Le Bayern choisit pas ses matchs.
Ouais, je sais pas s'ils choisissent, malheureusement.
Non, Paris, ils choisissent leur match. Je suis désolé, ils choisissent un match comme moi contre Nantes. C'est inadmissible.
Ouais, mais ils les choisissaient à une période. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans le dur à plusieurs niveaux. D'un point de vue physique, déjà,
vous
ça
vous
c'est une certitude.
Sabri, vous vous rendez compte qu'on est au mois de fin mars, on va être fin mars là, et on est en train de se poser la question. De se dire, mais si un tel est en forme ou si un tel est en forme, ça veut dire que depuis le début de la
saison. C'est pas moi. Hein.
Non, mais Sabri, ça veut dire que depuis le début de la saison, et l'un et l'autre, des deux grandes stars du Paris Saint-Germain, ça veut dire que jamais, depuis presque six mois, jamais ils n'ont été en forme. Et quand je parle en forme, c'est pas sur un match, Sabri, c'est sur une bonne période. Et vous vous rendez compte, on est là et on se pose la question. Il faudrait peut-être, c'est presque un miracle, si demain, en même temps, deux joueurs qui n'ont jamais été en forme depuis le 1er septembre étaient en forme et les deux en même temps.
Jean-Michel, c'est pas à toi que je vais dire ça. Les compétitions, elles se gagnent à ce moment-là, dans cette période-là. Et des fois, on peut être surpris. Et il y a un autre facteur que t'as certainement oublié. C'est vu ce qu'on vit actuellement dans la crise. En effet, le Bayern, je pense que c'est, et encore, ils ont eu des piqûres de rappel, hein. Polo nous parlait du nombre de buts qu'ils encaissent. C'est pas par hasard aussi, hein. Ça montre aussi que le niveau de forme de certains joueurs varie un peu plus cette année que les autres années. Mais sinon, à part le Bayern, vraiment. Et allez, on va mettre City parce que City est une machine. Mais le reste, toutes les grandes équipes aujourd'hui avec les grands joueurs, ils galèrent.
Quand on voit Liverpool,
ils galèrent. Tu vois Liverpool, tu vois le Real Madrid, tu vois Barcelone, on en parlait, tu vois la Juve, mais tout le monde galère aujourd'hui. Donc
et juste pour tempérer vos votre optimisme, bon.
Si
Mbappé est. Mais Sabri et Jérôme, et si par hasard Navas faisait un match normal,
Il sera bon alors.
Mais pourquoi il ferait un match normal alors qu'il est en mode Ligue des Champions à chaque fois qu'il est en Ligue des Champions? Il n'y a pas de raison qu'il fasse un match moins bon.
Pourquoi ceux qui ne sont pas... Oui, c'est extraordinaire, François.
Quand un gardien est chaud comme ça...
Ben voilà.
Moi, j'ai connu ça avec Mika Landreau. il est chaud toute l'année. Hein. Et il ne descend pas de niveau.
Surtout sur les sorties aériennes.
Ce qu'on appelle avoir la main chaude. Exactement.
Le chat.
Bon, on remercie Sabri en tout cas d'être passé dans Rotten Régal. Merci Sabri.
François, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si au match aller, le PSG faisait un résultat au parc, à l'Allianz Arena, hein, par exemple, n'oublions jamais que le Bayern peut très bien l'emporter au parc.
Oui,
c'est-à-dire qu'il va falloir être extrêmement modeste, extrêmement humble, ça va être une course de fond. Il ne faut pas exploser à l'Allianz Arena. Et il y a cette possibilité, on a parlé des attaquants, mais ne jamais oublier que le Bayern peut très bien, dans le mode quand le grand Bayern est là, il peut très bien te mettre une raclée au parc.
Comment on dit remontada en allemand? On en parlera plus tard.
Déjà, on n'est pas là.
Salut Polo, merci beaucoup.
Polo, merci.
À très très bientôt. On va aller à Marseille, les amis, parce qu'à Marseille, il y a eu quelque chose d'important aujourd'hui pour le sport français. On rejoint Julien Richard. Salut Julien.
Salut à tous.
On parle de natation avec une bonne nouvelle pour Florent Manodou.
Oui, Florent Manodou qui a officiellement validé sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Alors on va pas dire que c'était une formalité, mais presque. En fait, il avait déjà réalisé le temps exigé par la Fédération Française de Natation. Il l'a refait cet après-midi en finale, mais la période de qualification de 3 mois qui avait été ouverte là par la Fédération et se termine ce week-end. Donc ça veut dire que personne ne peut désormais lui passer devant. Donc c'est sûr, mathématiquement, il est qualifié pour les Jeux Olympiques. Il a son billet en poche, il va pouvoir préparer maintenant tranquillement l'échéance de cet été. Ce seront ses 3e Jeux Olympiques, lui qui est champion olympique, vous le savez, du 50 mètres d'agib en 2012, vice-champion olympique en 2016, qui a fait une petite pause en balle et qui espère revenir sur le podium à Tokyo l'été prochain.
Ok, merci beaucoup Julien.
Merci Julien, bravo.
Tout de suite dans Rotten Régal, c'est l'élève
bon
contre
courage.
Le maître, l'affrontement Jérôme Rotten contre Captain.
RMC, Rotten Régal.
François Pinet,
Jérôme Rotten.
18h33, toujours dans Rotten Régal, bien sûr. François Pinet, Jean-Michel Larquet sont toujours là. Oui. François, c'est l'heure de l'affrontement avec Jean-Michel.
Ça va être magnifique. Autour on va s'affronter. Sampaoli,
sur l'Olympique de Marseille.
Marseille, ça, en général, ça chauffe. Mais juste avant, Jérôme, le programme du Journal Moyen ce soir avec Adrien Hédouin.
Salut, Adrien. Messieurs. On va débriefer la semaine de votre camarade, Éric Dimeco. Oui, qui a fait de la radio cette semaine, il a fait de la télé. Il était très bon, mon Éric Dimeco, sur la Ligue des Champions. Très bon, Jérôme.
Tu vas te
régaler, Jérôme.
Les analyses pointues,
Jean-Michel. Ça sera dans un quart d'heure.
J'aime bien répondre aux questions en plus.
À tout de suite, ouais, Adrien. À tout de suite. Allez, maintenant, Jérôme Rotten face à Captain, l'affrontement. C'est parti.
RMC. À chaque fois, bam, ça fait pchit.
Qu'est-ce qu'il dit ?
C'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui change de direction.
Oh merde.
Le maître contre l'élève.
Magnifique. Jérôme a eu la peau donc de Nasser Larguette, hein, ça t'a pas échappé,
non,
Captain.
Non, j'ai pas eu la peau. J'ai eu la peau.
Renvoyé à ses chers études.
Mais non, j'ai pas eu la peau, mais ça me donne tellement raison.
Bon, en tout cas, encore la dernière fois qu'on était ensemble, effectivement, Nasser en avait pris.
Mais je l'embrasse, Nasser, il est bon à la formation.
Et effectivement, il n'est plus sur le banc, c'est Sampaoli qui est désormais l'entraîneur. Sampaoli, entraîneur depuis deux matchs, deux victoires contre Rennes et contre Brest. Allez. Captain, toi, tu trouves que Jérôme, autant il était méchant avec Nasser Larguette, autant là, il s'enflamme un peu trop avec le nouvel entraîneur argentin de l'OM.
Non, mais c'est le défaut de la jeunesse. Je voudrais dire à Jérôme de se calmer, d'être patient un tout petit peu. Ah, évidemment, il faut pas attendre encore une saison pour se faire une idée sur le travail de Nasser Larguette. Il n'a pas eu le temps, ou de Sampaoli. Mais de là à s'enflammer, lui, le Parisien, pour le travail de Sampaoli, qui vient de remporter deux matchs. Bravo, chapeau. Rien à dire. Mais dans ces deux matchs que j'ai suivis avec attention, il faut savoir que les adversaires de l'Olympique de Marseille étaient des adversaires redoutables.
Rennes
il y avait donc, il y avait donc Rennes qui gagnait plus un match depuis trois mois et le Stade Brestois qui, effectivement, depuis quelques semaines, a de grosses difficultés et en prend comme au boule, comme on dit à Marseille. D'ailleurs, pour remporter ces deux victoires, il y a le score et il y a le contenu. Pour moi, le contenu, c'est un petit peu mieux que ce que je voyais jusqu'à présent. Il y a eu un petit rééquilibrage des joueurs. Il y en a quelques-uns qui ont eu leur chance et qui apportent parfois quelque chose. Sampaoli y est pour beaucoup. Mais je pense que Luis Enrique jouait. Je pense à lui, jouer avant que Sampaoli arrive. Et puis, il y a le contenu et puis il y a le résultat. Jérôme, tu aurais fait le pari, toi, que pour une victoire 1-0, qui est le but de la victoire, et pour le but qui va rendre un petit peu plus large la victoire contre les Brestois, tu sais qui a marqué les deux fois. Tu le sais très bien, il s'appelle Cuisance. Tu sais combien il avait marqué de buts depuis qu'il était à l'Olympique de Marseille ?
Bah, zéro.
C'est-à-dire que tu fais le pari, c'est France-Croatie, demi-finale de la Coupe du Monde. Pour remonter le but de... C'est donc...
Thuram.
Thuram, qui n'a pas marqué un but, qui va marquer deux, dont un de pied gauche. Ou bien c'est le but de Pavard, qui est arrière droit sur un centre de défenseur gauche. Voilà.
C'est un coup de chance.
Alors,
quoi.
Je dis pas ça. Comment ?
C'est un coup de chance. C'est la réussite.
Non, mais tant mieux. Tant mieux pour Sampaoli. Tant mieux pour l'Olympique de Marseille. Ouais. Mais le football est fait de choses. C'est ce qui rend d'ailleurs le football extraordinaire, hein, Jérôme. Tu te rends compte ? Le gars, il n'a pas claqué un but de la saison. Il n'est même pas titulaire. Il entre les deux fois. L'une fois, il donne la victoire à l'Olympique de Marseille à la 89e minute. Et la seconde fois, il donne à la victoire de Marseille une ampleur qui est un peu en trompe-l'œil. Donc, pour ça, Jérôme, je te dis, je pense qu'il faut être un petit peu patient. Et que, bon, peut-être que d'ici 4-5 matchs, 2-3 matchs avant la fin du championnat, on pourra avoir une idée. Mais en 180 minutes, se faire une idée sur un changement avec deux victoires à la clé. Je pense honnêtement que ce sont ces deux victoires à la clé qui te rendent un peu euphorique, toi, le Parisien, qui a toujours rêvé de jouer à l'Olympique de Marseille.
Ça, c'est une petite revanche quand je te dis que t'es devenu supporter lyonnais pour un Stéphanois. Mais moi, je reviens sur le bilan. Moi, je veux bien, oui. Alors, il y a le bilan mathématique. Deux victoires, en effet, sur ces deux matchs, Sampaoli. Nasser Larguet, c'est 9 matchs à la tête de l'Olympique de Marseille. C'est 2 victoires aussi sur 9 matchs. Dont une seule en championnat et une en Coupe de France à Auxerre avec un Auxerre bis. Donc moi en fait c'est très simple, il y a le choc psychologique qui est arrivé avec Sampaoli et qui n'est jamais arrivé avec Nasser Larguet, ça c'est une certitude. Donc ça a montré aussi ses limites à Nasser Larguet, et il avait d'autres limites dans la gestion d'un effectif professionnel. On l'a vu dans ses compositions d'équipe, on l'a vu très bien, et tu le sais, que il est revenu très vite à ce que faisait Villas-Boas, c'est-à-dire un milieu à trois avec les mêmes milieux de terrain que Villas-Boas, comme quoi par moment,
mais
il
non,
s'est
Rangier
non.
Était blessé.
Non. Au tout début, rappelle-toi au tout début des compositions d'équipe. Non, c'est pas vrai. Au début, il a fait le premier match, il est passé en 4-4-2. Tout le monde a dit, oh là là, c'est magnifique. Et puis, les matchs d'après, 4-3-3, il est revenu dans ce qu'il faisait de classique. Bien sûr que derrière, il y a eu des blessés. Il y a eu des choix où il a mis des jeunes, mais dans le même dispositif avec Kawi, avec Dieng devant. Et ça n'a pas, excuse-moi, marqué les esprits. Au contraire, les résultats n'étaient pas bons. La façon de jouer n'était pas bonne. Que Marseille, quand tu as le bilan d'un match de l'Olympique de Marseille, que sur, même quand ils font match nul ou quand ils perdent, mais il y a une façon de jouer. Quand les joueurs ne frappent au but 4-5 fois, ce qui était le bilan des matchs de Nasser Larguet, en moyenne, c'était ça.
Oh, les deux. Ils n'ont pas frappé beaucoup plus souvent.
Non. Alors, dans ces cas-là, les stats me donnent raison là-dessus. C'est que les deux victoires, même si elles sont en fin de match, c'est au moins c'est 12-13 frappes dans le match.
Il y a eu 9 tirs contre Rennes, dont 2 cadrés, voilà.
Ouais. Mais
quand tu décalines le poteau de corner, c'est un tir, il est
non,
pas cadré.
Non, mais d'accord, mais là je joue sur les mots. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même quelque chose qui se passe qui est complètement différent. Et puis à côté de ça, un entraîneur doit être entraînant. Moi je pars de ce principe-là. Alors après ça se vérifie pas chez tous les entraîneurs, et des entraîneurs qui sont moins entraînants, qui ont des résultats et qui arrivent à tirer le maximum, je respecte. Mais par contre, cet entraîneur-là, en effet, je m'imagine dans le vestiaire, c'est pour ça que je dis du bien de Sampaoli, je m'imagine dans le vestiaire qui, quand il me parle de foot, quand il me parle de position, quand il me parle de Grinta, eh ben oui, ça me parle. Et ça m'aurait réveillé si je m'étais endormi. Et je pense qu'en effet, ça a réveillé une grande partie de l'effectif de l'Olympique de Marseille, d'où les victoires, certes à l'arraché, mais en fin de match. C'est pas anodin quand tu gagnes 2 matchs de suite. Il y a de la réussite, mais il y a surtout un tempérament, une personnalité qui a changé. Et je trouve que là, en très peu de temps, il a ramené ça. Et moi j'en suis content, parce que j'étais premier à dire que quand ils ont fait le choix de Sampaoli, il fallait qu'il arrive le plus vite possible pour remplacer Nasser Larguet, qui n'était pas à sa place. Voilà, là il est à sa place, il est au centre de formation, il est même aux côtés à l'Unicatef, aux côtés de Raymond Domenech et de Philippe Montagnier.
Mais donc, le but n'était pas de reparler de Nasser Larguet.
C'était une comparaison de Jean-Michel me disait que j'avais été dur envers Nasser Larguet. Oui. J'ai été dur.
C'est pas moi qui te l'ai dit.
C'est
moi.
C'est toi qui m'as dit tout le temps, tu m'as dit très très dur avec Nasser Larguet, mais qu'est-ce qui t'a fait? Ah, vous êtes connu à Caen, ça a du mal se passer.
Je ne connais pas, moi, je ne connais pas Nasser Larguet.
Mais Jean-Michel, c'est ce que tu m'as dit il y a quelques semaines. Tu m'as trouvé très dur envers Nasser Larguet. Moi, j'ai des arguments. Je les ai mis en place.
Je t'ai trouvé très dur parce que c'est un garçon. Et on fait.
Mais il peut être très charmant.
Parenthèse. Tu as un garçon qui n'a fait que des centres de formation et que l'on met là. C'est un pompier qui arrive. Il a juste une pompe à bras. C'est compliqué pour lui. Donc, il fallait pas attendre des miracles.
Mais
il n'en a pas fait.
Exactement.
Là, on a Sampaoli, entraîneur de l'Argentine, entraîneur du Chili, entraîneur.
Mais tu trouves pas ça rafraîchissant, toi? Moi, écoute, quand je l'entends parler de foot, après qu'il ait des résultats ou pas, parce que tu sais à quel.
C'est un autre débat que Sampaoli, lorsque Sampaoli parle football, que tu adores, que tu kiffes, que tu aimes, que tu apprécies, je suis d'accord avec toi.
Bon, bah, tant mieux.
Il n'y a pas de souci. Après, tu sais bien que l'important pour un entraîneur, c'est pas de parler, c'est de savoir faire passer son message.
Exactement.
Bah, pour l'instant, il le fait passer.
Et de durer, Captain. Et c'est là aussi où je rejoins quand même Captain. Souvent, quand il y a un changement d'entraîneur, Jérôme, et moi aussi, j'aime bien le discours de Sampaoli, mais souvent, il y a un effet. Ça fonctionne sur.
La preuve, ça a fonctionné avec Nasser Larguet.
Bon, alors, ça a peut-être pas bien fonctionné avec Nasser Larguet, mais en tout cas,
une équipe moyenne.
Ça a mis en tout cas un petit peu de calme dans le vestiaire. Et c'est peut-être.
Et l'effet à Nantes, ça a fonctionné avec Raymond Domenech?
Non, mais.
Nasser Larguet, c'est un.
Il est mal arrivé.
Je vous pose la question.
Je parle souvent, il y a un effet.
Mais non, c'est pas vrai. Cet effet-là n'arrive pas jamais.
C'est avec Villas-Boas.
C'est pas si c'est. Oui, mais parce que Villas-Boas, après, il est parti en vrille. Et dans sa com, ça n'a pas été bon.
Mais rien ne te dit que Sampaoli, ça va aussi fonctionner dans la durée.
Ben oui, mais attends. Est-ce que j'ai dit que Sampaoli, c'était sûr d'être une réussite à Marseille? Non. Dire les résultats vont me donner raison ou pas. Ils vont lui donner raison.
Aujourd'hui. D'entraîneur tous les trimestres.
Aujourd'hui, Sampaoli, quand même. Attends, c'est assez réducteur ce que vous dites, parce que Sampaoli, il arrive dans une situation où le club est dans la merde. Mais excusez-moi, mais c'est la vérité. Où les joueurs sont démobilisés, où il y a une gangrène dans le vestiaire, et tu sais très bien que les mecs ne partiront pas en vacances ensemble.
Mon petit Jérôme, ils partiront pas en vacances ensemble.
Et donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'entraîneur, pour les remobiliser et pour arriver à tirer ce qu'il en tire depuis deux matchs, c'est qu'il y a un gros travail derrière. Et tout ça, plus le fait que sa com, à mon sens, et j'aime, elle est bonne. Eh ben écoute, pour l'instant, on est séduit. Et moi, je suis séduit. Après, écoute, peut-être que dans 6 mois, il n'arrivera pas à avoir le recrutement qu'il veut. Il n'arrivera pas à faire partir les joueurs qui, pour moi, gangrènent ce club et l'empêchent d'avancer. Et peut-être qu'en effet, il fera du Villas-Boas comme Villas-Boas a fait cette année. Mais je ne lui souhaite pas. Pour l'instant, c'est un choix qui est payant.
On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Le choix, évidemment, est payant en termes de chiffres et aussi dans l'état d'esprit. On est d'accord, Captain. On est d'accord avec ça.
On peut être patient aussi.
Oui, ne pas s'enflammer.
Voilà. Ça, on n'est pas sûr, Michel.
L'inflammade marseillaise.
On est patient. Comme on est patient avec Bruno Genesio à Rennes. Et ben on sera patient avec Sampaoli.
Ça y est, ça y est. Et Michael Lambeau.
Non, Mika, il n'a pas de club. Non, je lui souhaite de retrouver.
Pas encore, ça peut arriver bientôt.
Bah, on lui souhaite, il veut entraîner.
Bien sûr. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'OM, je vous dis juste que à 19h, on sera avec Flo Germain pour parler du prochain match à Nice demain. Justement, on aura toutes les dernières infos de Flo, puisque l'OM est revenu évidemment dans la course à la qualification en Coupe d'Europe. Et puis, il y aura un ancien de l'OM invité de Top of the Foot, ça c'est à ne pas rater, ça sera mardi prochain à 18h. André-Pierre Gignac, qui s'éclate en ce moment au Mexique, qui a l'OM dans son cœur, évidemment.
Très bien de le faire.
Il sera avec nous, il est avec les Tigresses, exactement.
Très bien de le faire, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas parler ici, du moins très peu.
Il parle peu en tout cas. On en entend parler, mais lui, il parle peu.
Il parle peu, et c'est bien de le remettre en avant, parce qu'il fait des très belles choses là-bas. Voilà, on ne peut que le féliciter.
18h dans Top of the Foot, il y aura ses anciens coéquipiers également, Adil Rami, Valbuena, tout ça au milieu.
Voilà, ça.
Avec Jean-Louis Tour et Mohamed Kouefsi, bien sûr. On revient tout de suite dans Rotten Régal, avec Captain, avec Jérôme, avec le Journal Moyen, bien sûr, de Rotten Régal et d'Adrien Aigouin. Tout de suite.
Rotten Régal, François Pinet,
Jérôme Rotten.
18h51, toujours avec François Pinet, Jean-Michel Larquet, bien sûr. Après 19h, François, là on s'attaque au multiplex Ligue 1. Là on se lance dans la journée de championnat qui va être palpitante encore une fois.
Sur RMC, c'est la lutte pour le titre tous les vendredis. On ira à Lyon, puisqu'il y a Lyon-PSG, on ira à Lille avec Jean Baumel.
J'espère qu'il est long, parce que là tu m'as dit Lyon, ça veut dire qu'Edouard est là.
Oui.
Donc il va falloir laisser beaucoup de place.
Écoute déjà. On ira aussi à Nantes, à Bordeaux, bien sûr, dans le multiplex. Mais d'abord, c'est le 18h51.
Le journal moyen de la semaine dans Rotten Régal sur RMC, Eric Dimeco. L'analyse, c'est le consultant premium. Gros plan sur le Bayern, ce club dans le règlement intérieur est très strict. Et puis, Eric Dimeco. Voilà. Vous êtes prêts à cette semaine? C'était l'anniversaire d'un ancien camarade d'RMC. Moi, j'aime bien la fidélité.
Ah oui, t'as raison.
C'était Willy Sagnol hier, qui avait 44 ans.
Ah oui, c'est vrai.
Il est jeune, Willy.
Mais c'est vrai qu'il est plus vieux.
Il fait plus vieux, Willy.
On a l'impression que c'est la génération des Dugas, c'est 50 ans. Mais non, 44.
Je pense qu'il fait partie de ces gens qui sont nés vieux, Willy Sagnol.
Ouais. T'imagines, moi, je vais avoir 43. J'ai mis une photo ce midi parce que je l'ai vu. J'ai mis une photo de Willy et une photo de moi. Je dis, putain, mais
on embrasse Willy, qui était un super camarade, qui nous a laissé des bons souvenirs sur RMC.
Mais non, c'est sarcastique en disant on est les dindons. bâton de la foire.
Et voilà, merci Willy. Il parlait très bien anglais aussi.
On repassera pour la farce.
Hi everyone, I'm Willy Sagnol.
Et voilà, ouais. C'est pas l'américaine, Willy.
Oh, il a fait faire des trucs quand même à Willy.
Bon, bon anniversaire, Willy. Allez, on t'embrasse, Willy. Vous écoutez RMC, les 18h passées de 52 minutes.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Rotten Régal.
Adrien Aigouin.
C'était donc une semaine de Ligue des Champions avec des consultants en mode premium. Eric Dimeco enfilait sa veste premium, jingle premium.
Oui, c'est plus dégagé maintenant. Ils ont été le stade ici.
Le sens de la chute. Eric était donc à Madrid cette semaine pour commenter Real Madrid-Atalanta. Il nous a offert son grand classique dès la troisième minute, occasion pour l'Atalanta. Alors le grand classique d'Eric, c'est il nous ressort son cri. C'est le cri du gars qui se brûle en sortant un plat trop chaud du four. C'est Eric Dimeco.
Luis Muriel face à Lucas Vázquez, le centre du
ballon.
Je me suis brûlé, c'était alors qu'il n'y avait pas d'occasion très franche. Voilà, c'est, ouais. Et puis Eric, après, moi ce que j'aime, c'est avant tout de l'analyse bien précise. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le milieu des consultants, enfin vous avez confirmé, c'est l'école Habib Bey. Tu sais exactement ce qu'il faut dire. C'est carré sur ce coup franc, analyse.
On revoit le coup franc de Muriel et cette combinaison avec trois joueurs qui bloquaient le champ de vision aussi de Courtois, ça a pu le déranger ça, Eric.
Ouais.
Merci Eric. Et tu passes au 7ème étage pour ton contrat, Eric. Voilà, c'est intéressant.
Il est payé très cher.
C'est la plus-value, hein, voilà, c'est vos héritiers, Jean-Michel.
C'est ce qui fait la différence.
La suite, très intéressant sur la suite du parcours du Real, là c'est analyse, il s'engage.
Eric, jusqu'où vous voyez aller le Real cette saison désormais qu'ils ont passé l'Atalanta et chassé les démons des éliminations prématurées des deux dernières saisons.
Merci Morico. On repassera pour le prochain tour. En fait, il dit.
Je pense qu'il faut
prendre une décision. Il faut que Jérôme Sion arrête de lui poser des questions en plein match parce qu'il a la tête sur le match.
Il est chiant, Jérôme Sion.
Il a peut-être la tête ailleurs. Je ne sais pas où il a la tête. Eric,
pourquoi il l'utilise en tant que consultant?
Mais c'est ça. Jérôme, en général, ils sont chiants.
Ouais, c'est ça. Alors, j'imagine qu'on est tous les deux.
Il y avait du direct sur RMC. Alors, Ligue des Champions, là, on quitte la Ligue des Champions. Lucien Denis.
Ah oui, Lulu.
Dijon-Bordeaux. Dijon, les pauvres, ils sont derniers de Ligue 1, menés 3-0 à domicile. Lucien, il aime bien Dijon, hein, c'est à côté d'Auxerre. Lucien est désespéré.
Voilà, il y a des joueurs, moi je suis un peu étonné de les voir sur la pelouse aujourd'hui.
Parce et surtout, on sent qu'ils ont lâché, c'est ça le problème.
Ouais, c'est ça qui m'inquiète le plus, moi, parce que voilà, il y a à recevoir Reims, après on va aller à Marseille, à Monaco, ça va être compliqué. J'espère que la fin de saison, on va pas être en jus de boudin, parce que franchement.
Le fameux jus de boudin
ça me fait de la
peine. Ah, le jus. Goûter du jus de boudin.
Le jus que l'eau,
c'est,
hein.
Son petit déjeuner, un bon jus de boudin.
Jus de boudin.
Sans transition, direction pour conclure à l'Allemagne, avec une histoire peut-être qui aurait pu t'arriver, Jérôme, en tant que joueur. Nous sommes à Munich, information du journal Bild. Comme tous les matins, Kingsley Coman se présente au centre d'entraînement en voiture. Et là, le service de sécurité, il y a un monsieur qui lui refuse catégoriquement l'entrée du parking souterrain. Il dit vous rentrez pas. C'est Coman, c'est la star, une des stars du club. Ouais. Pourquoi il refuse? Il y a une raison, c'est la boulette de monsieur Kingsley Coman. Coman est au volant à ce moment-là d'une Mercedes.
Ah oui,
c'est gros problème, ouais. Car il y a un accord entre le Bayern et la marque Audi, comme on dit en Allemagne,
qui oblige les joueurs
à venir à l'entraînement avec leur Audi de fonction. Donc gros enjeu. Audi est même actionnaire du club, 8,33% dans le Bayern, ça je ne savais pas. Le deal annuel estimé à 50 millions d'euros par an, il verse au Bayern. Et Tamon Kingsley qui arrive avec le concurrent principal. Donc ça rigole pas avec ça. Il a présenté ses excuses dans Bild. Il dit je tiens à m'excuser parce qu'en fait je suis venu en Mercedes parce que j'avais un des rétroviseurs de mon Audi qui était endommagé.
Ça, on l'a tous fait.
Il va même aller visiter une usine qui se trouve pas très loin du centre d'entraînement pour aller discuter, signer des autographes avec les salariés de chez Audi.
C'est de l'autre côté de la rocade.
Mais c'est incroyable. Règlement intérieur du Bayern. Attends, mais l'amende, t'as une idée de l'amende, Jérôme?
Ça doit en proportion avec les salaires, donc ça doit être 100 000.
50 000 euros d'amende, ça coûte cher de se tromper de voiture pour aller travailler.
Il a gardé sa Mercedes quand même.
Ouais, il l'a garé dans la rue, à trois rues du centre d'entraînement. Il est t'allais à pied. Bon, voilà, c'est comme ça.
Ok.
Mais ça, tous les, c'est marrant parce que moi, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Mais alors, j'ai pas fait le coup du rétro quand t'as le truc, mais c'est souvent la voiture, elle voulait pas démarrer. Donc, en fait, j'ai pris une autre.
Bloqué.
Mais tu restes en dehors du parking, en effet.
J'ai pas d'excès de vitesse, genre. Ouais.
Bon, j'en reviens pas des 44 ans de Willy Sagnol, je te cache pas.
44 ans de Willy Sagnol.
Il a juste 4 ans de plus que moi.
Ou alors, je me suis planté, mais.
Non, c'est 44. C'est 44, il est 77.
J'en reviens pas. J'ai pris un coup de vieux d'un coup. Merci beaucoup, Adrien.
Merci, Adrien.
Bon week-end à toi. Dans un instant, on revient dans Rotten Régal, évidemment. Le multiplex Ligue 1, on ira à Lyon avant le choc face au PSG. On sera à Lille également. Gasset se sent trahi à Bordeaux, donc on ira prendre des nouvelles des Bordelais. Et puis, cette question, l'OM doit-il jouer à fond la 5e place? On sera avec Flo Germain pour en parler, évidemment. Restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Rotten Régal.
RMC,
18h-20h.
Rotten Régal. François Pinet,
Jérôme Rotten.
19h01, toujours dans Rotten Régal. Allez, c'est reparti pour cette deuxième heure avec François Pinet, Jean-Michel Larquet. Et là, on attaque le multiplex Ligue 1. On se lance sur la journée de championnat qui est. Elles sont de plus en plus palpitantes, ces journées de championnat, mais là, il y a des gros chocs.
C'est passionnant. Il y a Lyon-PSG, on en parle dans un instant. N'oubliez pas aussi le multiplex foot européen à 19h30 avec nos correspondants. Ce sera Fred Hermel, Julien Laurent. C'est un sacré choc pour parler d'un choc de Ligue des Champions. Real Madrid-Liverpool, quand même. Hein. Ça sera donc à partir de 19h30. Et puis, n'oubliez
Dieu
pas
Briscard.
Le quiz de Rotten Régal. 32-16 pour vous inscrire, bien sûr.
Là, ça va pas.
Jérôme ou avec Captain. Alors, la dernière fois, je vous ai laissé avec une victoire large de Jérôme.
Ouais, dans le sud de la. Et puis, il s'est plaint. Mais tu sais qu'il s'est plaint de toi à Jean-Louis François. En disant François,
une victoire large de Jérôme à laquelle tu as largement participé.
Mais tu vois,
scandaleux, ça remet la
pression. On laisse-le comme ça, il est pas bien en ce moment. Ça fait 4 quiz de suite qu'il perd.
Ah ouais.
Et là, c'est pas la faute de François Pinet parce que c'était Jean-Louis Tour qui l'aide en plus. Jean-Louis l'aide très souvent.
Et Antoine
l'aide.
Effectivement. Tu reconnais ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Captain? Tu reconnais
Oui. La dernière victoire, j'ai pris une branlée. Non, il n'y a rien à dire.
Merci.
Bon, allez, en tout cas, 32-16 pour le quiz. Mais tout de suite, comme tous les vendredis, 19h, le multiplex de Rotten Régal.
RMC, Rotten Régal.
Et la casquette qui s'en est pour moi! Elle est pour moi, cette casquette qui s'en!
Le multiplex.
La lutte pour le titre, évidemment, dans Rotten Régal. On a avec nous Edouard Jay, notre correspondant à Lyon. Salut, Edouard. Edouard.
Salut
Edouard.
Bonjour.
L'homme du week-end.
Il est leader de Ligue 1 avec le LOSC. Jean Baumel, Djibo est avec nous. Salut,
bonsoir Djibo. François, bonsoir Jérôme, bonsoir salut, capitaine.
Flo Germain est en direct de Marseille à la veille de Nice, Marseille. Salut Flo.
Salut François, salut, Flo. Salut capitaine, salut Nasser. Salut Jérôme.
Et puis à Nantes, avant un match très très chaud pour le maintien, on retrouve Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves.
Bonjour à tous, bienvenue à Nantes, la nouvelle place forte du foot.
Salut Pierre.
Il y a des titulaires ce soir. C'est l'équipe type ce soir, c'était pas arrivé.
Ah, c'est l'équipe type.
Il y a encore une grosse défense. Les vieux briscards.
On a un pilier de barre.
À Bordeaux, Nico Parlorsi est avec
nous. Salut, je vois en tout cas qu'on a boycotté Julien Landry, donc il fait pas partie des titulaires.
Non, il est passé, il nous a déçus ces derniers.
Vétéran.
Ouais.
Allez, tout de suite, on va commencer ce multiplex en prenant la direction de Lyon. Lyon avec l'OL qui reçoit le Paris Saint-Germain dimanche à 21h. On se souvient du match aller, Edouard. À l'aller, le PSG s'était incliné au Parc des Princes, battu par Lyon 1-0. Est-ce que les Lyonnais vont s'appuyer sur ce match? Est-ce qu'il en était question lors de la conférence de presse du jour?
Oui, justement, c'était l'un des thèmes. Et alors, il y avait du oui et du non. On n'était pas en Normandie, mais il y avait du oui et du non. Et surtout du non, c'est Rudy Garcia. Ce n'est pas le même coach, ce n'est pas la même tactique et c'est pas la même période de la saison. Peut-être qu'il faisait référence au rendement de ses troupes. Hein. Au mois de décembre, tout allait bien pour l'OL. Et puis Memphis, qui était en conférence de presse aussi, dit non, on a laissé cette victoire en 2020. On a fait du bon travail, mais c'est un nouveau challenge qui nous attend pour ce dimanche. Il y a eu quand même du oui parce que les deux ont parlé de confiance acquise avec cette victoire. Du coup, on a dévié sur la force de l'OL actuellement. Cette belle passe face au gros, pour l'instant, avec ses 4 points pris, c'est la meilleure dans ce mini championnat entre les 4 premiers. Et puis l'expérience aussi de Final 8 pour cette équipe de Lyon face aux grosses équipes où tout va bien, mais sans excès de confiance. Et juste qu'on a titillé Rudy Garcia sur le fait que le PSG a déjà perdu 7 titres. Eh bien, on sent bien qu'à l'OL, on dit que elle a déjà perdu 7 matchs. Hein. À l'OL, on dit, bah oui, mais le dernier titre des Lyonnais, c'était aussi avec 7 défaites. C'était en 2008. Et Rudy Garcia, il contre-attaque en disant, OK, ils ont peut-être perdu 7 matchs. Mais en tout cas, ils en ont gagné 19. Et c'est le plus fort taux pour les candidats au titre. Donc, voilà, cette victoire à l'aller doit donner un petit peu de confiance, mais pas d'excès de confiance pour les hommes de Rudy Garcia.
Lyon va-t-il refaire le coup, Jérôme?
Écoute, il va falloir qu'il fasse un match parfait. C'est sûr que le match aller avait été dans ce sens-là, du côté lyonnais. On avait senti beaucoup de maîtrise et surtout beaucoup de bonnes choses au milieu de terrain. Ils avaient vraiment été très bons, hein, Paqueta, Aouar, Thiago Mendes. S'ils renouvellent ce genre de match, oui, ils mettront dans le bon sens, ils résisteront à la force des Parisiens, parce que de l'autre côté, le Paris Saint-Germain devra réagir dans tous les cas. Ils ont été trop décevants sur les gros matchs pour encore être surpris à Lyon. Après, ça donne pas une garantie de résultat. Et là, on parlait du scénario, de la tactique, du niveau des joueurs, mais c'est le résultat surtout qui est très important, parce que malheur aux vaincus. L'équipe qui perd là, je pense qu'elle perd quasiment tout espoir d'être champion à la fin. Surtout que Lille reçoit, et on en parlera avec Gibo tout à l'heure, ouais. Mais Lille reçoit Nîmes et il pourra y avoir 6 points d'écart avec le perdant.
Alors il y avait Memphis Depay, Edouard, en conférence de presse, donc c'est signe que c'est un gros match évidemment, c'est le capitaine qui s'est présenté. C'est un des hommes clés, et ça sera peut-être l'homme clé justement pour le sprint final pour Rudy Garcia.
Oui, on a évoqué tous les sprints finaux de l'OL qui ont été souvent gagnants en 2002, 2004, 2016, 2018. Et justement, Memphis Depay, quand on lui a posé la question, est-ce que c'est ta meilleure année, cette année 2021, avec ses 14 buts et ses 9 passes décisives, il dit non, il y a peut-être 2018, parce qu'il avait marqué 8 buts lors des 8 dernières victoires de l'OL. Et à ce moment-là, ça lui permet d'un tacle, d'un câlin et d'un échange d'amabilité. Alors le tacle, ben vous allez l'entendre, c'est pour Bruno Genesio. Le câlin, c'est pour son coach actuel. Et l'échange, c'est la réponse énamourée de Rudy Garcia pour son capitaine. Je vous propose d'écouter les deux, Memphis Depay et Rudy Garcia.
Si Rudy Garcia était arrivé avant, j'aurais fait encore mieux, car il m'a donné beaucoup de responsabilité et de confiance. Avant lui, il y avait un manque de confiance et de communication. Je ne mets pas la faute sur Genesio, mais il y avait parfois des malentendus entre nous deux.
C'est un joueur hors norme. Ce joueur-là, c'est un des top players de la planète foot actuelle. Il a besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on joue carte sur table avec lui, qu'on soit honnête et qu'on lui dise ce qu'on pense.
Oui, voilà.
J'ai entendu un boom. C'est toi, Jérôme, tu t'es pas fait mal.
Autant je suis assez d'accord sur la relation qu'il a avec Genesio, et je pense que Genesio, elle a perdu du temps. Autant c'est vrai qu'il y a une relation de confiance avec Rudy Garcia, mais bon, tout n'a pas été parfait non plus, hein, depuis que Rudy Garcia est arrivé, hein, dans cette relation-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, offensivement, c'est la valeur la plus importante pour l'Olympique Lyonnais. Et tu peux, s'il n'y a pas un grand Memphis Depay sur la fin de saison, Lyon ne pourra pas rivaliser avec dans la course au titre. C'est pas possible. Si tu comptes sur Toko Ekambi, sur Kadewere, Cherki, sur ces joueurs-là, Slimani, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Par contre, s'il y a un grand Depay, à tout moment, en effet, tu peux faire une différence, parce qu'il a, cette technique-là, ce pied-là, qui peut faire des différences. Même quand il n'est pas bien, un coup de génie peut arriver, et ça, c'est le lot des grands joueurs.
Et ça, Rudy Garcia le sait, donc voilà, ça ne coûte rien de lui, ouais. De lui passer un petit peu de pommade en conférence de presse. Merci beaucoup.
Il ne faut pas oublier qu'il s'est fait un genou, hein, dans la période. Il y a eu 7-8 mois, même s'il y a une grande partie couverte par l'arrêt de la saison l'année dernière, mais à partir du 15 décembre 2019, il n'était pas là.
Alors Edouard, tu restes avec nous évidemment. Dans un instant, des infos justement sur Saint-Etienne-Monaco que tu vas commenter ce soir à 21h sur RMC. Justement, Jérôme, tu parlais de Lille. Tu as vraiment un énorme coup à jouer, parce que Lille, Djibo reçoit Nîmes juste avant ce Lyon-PSG. Donc c'est finalement le week-end qui peut être le week-end parfait pour les Lillois.
Ouais, c'est vrai, c'est à 17h, donc la mission forcément c'est de gagner. Et s'il gagne, Jérôme le disait, il y a un super coup pour Lille. Le meilleur des coups, ce serait le match nul entre Paris et Lyon, ce qui voudrait dire 5 points d'avance pour les Lillois. Et s'il y a un vainqueur, il y a le troisième qui se retrouverait à 6 points. Donc il y a un super coup à jouer. Christophe Galtier a fait référence forcément à ce qui s'est passé dimanche dernier entre le Paris Saint-Germain et Nantes, parce que il sait que Nîmes va sauver sa peau avec Pascal Planck, qui a porté pendant longtemps les couleurs de Lille et formateur d'Eden Hazard entre autres, hein, qui revient un petit peu à la maison. Donc il va le voir certainement peut-être faire un drôle de coup à son ancien club. Après, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que on l'a vu cette semaine, hein, quand tu n'as pas José Fonte et que tu mets Diallo, Yazice, Arojo, Bradaric, ils sont pas bien depuis un bon moment. Là, Christophe Galtier n'a plus que le championnat. Il va avoir certainement en défense, ça c'est sûr, toujours les mêmes jusqu'à la fin s'il n'y a pas de blessés. Chélic, Fonte, Botman, Reynildo à gauche, parce que Maignan, bon, ça c'est sûr aussi. Au milieu, tu auras André tout le temps, Sanchez, voire peut-être Cheka de temps en temps. Et puis devant, je pense que Bourak et David seront ensemble. Et sur les côtés, Bamba, Ikoné, qui va peut-être jongler avec Weah. Mais voilà, pour ceux qui ont raté l'occasion de la Coupe de France, un peu raté aussi le match contre l'Ajax, ça va être compliqué de trouver du temps de jeu. Et je pense que cette équipe-là, s'il n'y a pas de blessés, elle va être dure à bouger. Et va, ouais. Voilà, pour Christophe Galtier, je pense que il a plus de certitudes. Maintenant, il y aura les blessures, il y aura les suspensions, et il y aura aussi, on verra avec les sélections la semaine prochaine. Mais voilà, c'est la clé, elle est là pour moi.
Renato Sanchez opérationnel ou pas?
Oui. Oui, il y en a qu'un qui est absent, c'est Jérémy Pied. Donc, il a tout le monde.
Pas trop
théoriquement, grave, ça devrait. Ça
oui,
devrait
non,
aller
mais
pour,
de toute façon, les Lillois, quand je te dis, ils n'ont pas le droit à l'erreur sur ce genre de match, ça c'est sûr. Il faut gagner ces matchs-là contre des adversaires plus faibles. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème des Lillois, c'est les confrontations qui vont arriver contre des équipes du haut du tableau qui luttent pour ce titre. Et là, c'est vrai qu'on peut émettre quelques doutes sur l'état de forme individuel, mais aussi collectif de cette équipe. Elle a été beaucoup plus impressionnante sur il y a quelques semaines.
Ouais, et puis après, faut pas oublier aussi que si Nîmes, ça va être certainement le cas, va peut-être faire le coup comme Brest, comme Strasbourg, où Lille avait galéré à domicile, avec quand c'est un bloc bas, ils ont vraiment du mal et ils peuvent espérer pourquoi pas arracher le nul. Hein. C'est pas interdit pour une équipe comme Nîmes. Hein.
Ouais, si c'est ça, s'ils n'arrivent pas à battre Nîmes chez eux, hein, avec tout le respect que j'ai pour les Nîmes.
Je suis d'accord avec toi. Et en plus, t'as Bourak, parce que là, Bourak, sur ce genre de scénario, il va t'aider.
Ouais. Exactement. Voilà. Il était pas mal d'ailleurs pour le retour.
Ce qu'il a fait à Paris, c'était pas mal. Et voilà, on a vu que ceux qui étaient pas bien dans leur tête, les Diallo, les Arojo et Yazice,
pas bien dans sa tête, pas bien dans ses pieds.
Ouais.
Ouais, Diallo, ça fait plusieurs fois, Captain, c'est vrai qu'on le voit jouer.
Il aime bien Diallo.
Contre l'Ajax, il était formidable.
Il fait une petite fixette sur Diallo.
Non, mais c'est pas son genre de faire des fixettes.
Là, je peux te dire qu'il te l'a fait. Heureusement qu'il commande plus les matchs, parce que je peux te dire que Diallo, il s'en prendrait.
Allez, c'est le Multiplex, Liga de Rotten Régal. Merci Djibo, tu restes avec nous bien sûr. On va faire tout de suite le tour des stades. 5 infos ce soir, 5 infos, une info chacun. On va commencer par l'OM qui joue à Nice demain à 17h. Flo, il manquera un élément important à Marseille.
Oui, c'est Bouba Camara, sûrement le meilleur Olympien depuis le début de la saison. Et effectivement, Sampaoli a dit hier que c'était très compliqué de le remplacer. Faites vos jeux messieurs. Gay devrait entrer dans la danse aux côtés de Tovin au milieu de terrain. Et le troisième homme, qui ce sera? Est-ce que ça pour être Encham ou Cuisance, récompensé pour ses bonnes entrées et ses deux buts. En tout cas, on rappelle que Rongier, qui aura eu son mot à dire justement, est lui aussi forfait à cause du tendon d'Achille, comme à ma vie, touché encore la cuisse.
Nantes-Lorient, c'est dimanche, c'est décisif pour le maintien. Pierre-Yves, quelles sont les infos dans le groupe nantais et lorientais?
Eh bien, la parole est à la défense, parce que les absents, ils sont là. Fabio Ecorcia du côté nantais, et puis du côté lorientais, Vincent Le Goff et Jérémy Morel, toujours avec des problèmes de psoas. Donc, on va voir comment ça s'organise. Du côté nantais, il y avait eu le choix d'une défense à 5 face à Paris, mais c'était le choix d'un schéma d'un square. Donc on retrouvera peut-être Coco en défense, mais sans doute pas une défense à 5. Et puis du côté de Lorient, eh bien, on verra si c'est Ergo et Mendes qui sont sur les côtés, mais c'est fort probable.
À Bordeaux, Nico, avant le déplacement à Montpellier dimanche, ça sera encore sans Ben Arfa cette fois.
Ouais, ça sera encore sans Ben Arfa. Alors il va y avoir un dernier test demain pour savoir s'il peut faire partie du groupe, mais il a rechuté cette semaine. Il a pris un coup sur le genou la semaine dernière et il y a une petite tendinite qui s'est déclenchée. Du coup, ça paraît très compromis pour pour dimanche. Le gros coup dur aussi pour Bordeaux, c'est Samuel Kalou qui s'est blessé à la cuisse, déchirure de 3 cm. Il devrait revenir avant la fin de saison, mais il sera absent plusieurs semaines et c'est un des seuls joueurs à Bordeaux qui était capable de percuter. Edson Metscher est incertain, Mehdi Zerkan également qui a été intéressant à Dijon la semaine dernière. La seule bonne nouvelle niveau effectif côté Bordeaux, c'est le retour de suspension de Koscielny.
Et Djibo, tu nous parlais de Lille tout à l'heure. Lens est à Strasbourg dimanche à 13h. Est-ce que tu as des infos à nous donner sur les Lensois?
Le seul absent, ça sera certainement Ganago hein, qui a du mal à se remettre de son problème d'ischio. Départ demain pour Strasbourg. Et Lens qui perd des points, ça joue bien, mais ils ont perdu des points contre tes amis messins. Donc voilà, s'ils veulent.
Tout le monde perd des points contre mes amis messins en ce moment.
C'est une passe européenne, va falloir faire un beau finish.
Et puis Edouard, enfin, tu commentes, je le disais, Saint-Etienne-Monaco ce soir, 21h sur RMC. Les infos sur les Verts qui vont se présenter ce soir.
Eh ben, nos radars avec Timothée Mémon ne donnent rien pour le moment parce que il y a un groupe de 24 et il y a des cas Covid. Alors, à Saint-Etienne, on ne communique pas. Donc, on ne sait pas trop si, Aouchi, si Arnaud Nordin et surtout si Jesse Moulin vont être dans le groupe. Du coup, vu que Jesse Moulin peut ne pas être là, puisque Basic. Ils vont avoir un gardien qui s'appelle, qui pourrait s'appeler Étienne Green.
Ça ne s'invente pas. Étienne jouer à 11, ça va leur faire du bien.
Étienne Green, donc un jeune franco-britannique Green, hein, qui va bien. C'est
Green.
Pour le reste, ça devrait être Bouanga, Abi et Kazri, mais il y a beaucoup d'incertitudes avec ce groupe de 24. Ah, qui pour l'instant n'a pas les infos. Ah ouais.
Bon, les cartes fantastiques sont. Nordin n'est pas là.
On vous retrouve.
On ne sait pas.
Avec Timothée, merci beaucoup.
On va essayer de
rejoindre Geoffroy Guichard.
Il est là.
Toutes les infos, bien sûr. Après, Rotten Régal. Les autres vont rester. On sera à Marseille avant Nice. Marseille, à Nantes aussi, qui joue sa survie contre Lorient. Et Gasset, qui n'est pas certain de rester à Bordeaux la saison prochaine. On en parle tout de suite dans Rotten Régal.
On est mal.
RMC. Rotten Régal. François Pinet, Jérôme Rotten.
19h18, allez, on va repartir François avec notre multiplex. On va pas perdre de temps, on va donner la parole à nos correspondants.
N'oubliez pas quand même, dans 15 minutes, Fred Hermel, Julien Laurence, deux titans, parce qu'il y a Real Madrid-Liverpool en Ligue des Champions.
Ça va être l'affrontement.
On parlera de cet affrontement entre les deux clubs.
Je sais qui va gagner là.
Et puis,
il y en a un qui risque de se faire écraser.
Et puis juste avant, on va aller en Ligue 2, retrouver Aurélien Tiersain, Chambly, AC Ajaccio. C'est ce soir, c'est en
On est obligé. Ouais, bon, vas-y.
On va lui demander.
Salut Aurélien.
Salut messieurs.
Est-ce que c'est bien Aurélien?
Mais c'est énorme entre le 19e de Ligue 2, Chambly. Tu te rends compte, Jérôme, ça pourrait être la première fois que Chambly descend. Soit rétrogradé, ça fait 25 ans que le club existe, jamais le club n'a été rétrogradé. Et là ils sont 19e, ils ont un besoin cruel de victoire pour l'instant, 0-0 après 20 minutes de jeu. Ajaccio ne va pas très bien non plus en ce moment, donc l'objectif déjà ce sera de marquer un but, parce que ni l'une ni l'autre ne marque beaucoup en ce moment. Et il faut dire qu'effectivement vous n'avez rien manqué depuis le début. 20 minutes, 0-0.
Tu nous l'as bien vendu effectivement ce Chambly. Mais bon, on
a vu sur la cathédrale le soleil derrière qui se couche. On est quasiment à Los Angeles, on voyage.
On est avec Jean-Paul
du soleil.
Pierre-Yves Leroux, Flo Germain, Nico Paolorsi pour vous présenter la 30e journée de Ligue 1. On va tout de suite aller à Bordeaux avec toi, Nico.
Ah oui.
Parce que Bordeaux se déplace à Montpellier dimanche. Et alors, il y avait une conférence de presse de Jean-Louis Gasset. Alors, la dernière fois, on s'en souvient, c'était Koscielny qui avait pris la parole, qui avait bousculé un petit peu le vestiaire.
Et maintenant, c'est Gasset.
Là, Gasset, il a surpris un petit peu tout le monde, Nico.
Ben ouais, parce qu'on allait tranquillement à cette conférence de presse. Bon, c'était pas un match incroyable au niveau de l'enjeu. Bordeaux s'est rassuré la semaine dernière en battant Dijon. Ils sont 11e du championnat. Ils ont besoin de 6 points pour sécuriser vraiment le maintien. On se disait bon, c'est une petite conf comme ça, on va voir ce qui se passe. Et puis on pose une question à Jean-Louis Gasset sur Atem Ben Arfa. Il nous dit qu'il est incertain d'ailleurs pour dimanche. On lui pose une question sur l'avenir de Ben Arfa, est-ce qu'ils veulent le prolonger, parce qu'il a une année en option Atem Ben Arfa. Et en fait Gasset, il nous dit de lui-même, avant de parler de l'avenir de Ben Arfa, faudrait peut-être que moi je donne ma réponse. Et donc on essaye de le travailler, et on sent que Jean-Louis Gasset laisse planer vraiment une vraie incertitude sur son avenir à Bordeaux. Il dit qu'il discutera avec les hauts responsables du club. Je vous propose d'écouter Jean-Louis Gasset, et notamment quand on lui a posé la question de savoir s'il mettait son avenir en question, parce que cette saison actuelle le marque profondément.
On m'avait annoncé un challenge difficile. Connaissant le club, je me disais, voyant les joueurs de l'effectif, je me disais, mais en fin de compte, on m'avait menti, parce que c'est plus dur que ce que je croyais. Parce que là, on souffre. On vient de passer un mois de février où on a souffert, grandement souffert. Aujourd'hui, je suis fixé sur un objectif, bien finir. 9 matchs, 27 points, gagner le plus possible de matchs.
Voilà, alors d'après nos infos, avant le match face à Dijon, il a même pris la parole face à ses joueurs. Il a dit, les gars, il nous reste 9 points à prendre avant qu'on se quitte, bons amis. Et d'ailleurs, ça a pas mal interloqué les joueurs, parce qu'il y a certains joueurs qui ont tiqué et qui se sont dit, ah, ça veut dire que le coach va peut-être pas continuer avec nous la saison prochaine. Donc voilà, il se pose de vraies questions. Il se pose aussi des questions sur l'effectif qu'il aura l'année prochaine. Il y a encore 7 joueurs en fin de contrat, que Bordeaux n'aura pas les moyens de recruter. Donc il est en train aussi de faire l'état des lieux au niveau des jeunes. Voilà, il a pas envie de se remettre dans une deuxième saison galère. Il est en contrat jusqu'en 2022, ouais. Donc on va voir comment ça se passe.
Surtout Nico, que du côté de Bordeaux, l'horizon est plus que bouché. Hein.
Et y a, ouais, c'est quoi, ça va être très compliqué au niveau du recrutement.
C'est un club. Moi, je plains les salariés, ceux que je connais, les Alain Roche, les Patrick Battiston, les Yannick Stopira et compagnie. Mais c'est un enfer. C'est un enfer, ce club. Aujourd'hui, on ne sait pas où il va, on ne sait pas qui est le patron. On a un maire qui est parfois avec les supporters, parfois contre les supporters. On ne sait rien. Il y a une commission de conciliation. J'ai vu le pauvre Alain Gigeresse là-dedans qui essaie de faire le tampon entre les. C'est un bordel sans nom.
C'est un bordel. Et puis surtout, Captain, la principale question autour de Bordeaux, c'est le déficit qu'il y a, qui va être chiffré autour de 70 millions d'euros, probablement, avec les pertes financières liées au Covid et l'endettement du club. Donc voilà.
Et rassurez-moi, les joueurs, ils sont payés, là?
Les joueurs sont payés.
Ah d'accord, donc moi je veux bien que Jean-Michel, tu me parles de Battiston, de Roche, de Dumais ou quoi que ce soit, de l'ambiance dans le club. Quand tu entends ton entraîneur comme ça avec cette voix-là, quand tu vois les joueurs, le peu d'investissement qu'il y a...
Mais écoute, je n'en parle pas parce que
je crie au scandale là, plutôt qu'à aller chercher
de
des... Ben oui, non, mais qu'au mois de juin, ils se posent des questions tous, qui se barrent, qu'il n'y ait pas d'argent, que ceci, cela.
Mais là, Jérôme, tu as mal interprété mon intervention.
Ah, d'accord.
Mais les privilégiés, je n'ai même pas envie de parler d'eux.
Ah, d'accord. Bon, ça va.
Alors, merci Nico, on va partir à Marseille. Parce que Marseille joue à Nice, c'est demain à 17h. 2 victoires, on l'a dit, contre Rennes et Brest. Marseille qui s'est totalement relancé dans la course à l'Europe, Flo. Est-ce que l'OM doit jouer à fond cette cinquième place grâce à Sampaoli et pas du tout grâce à Nasser Larguette?
Non, bien grâce compris, à Sampaoli. Merci.
Écoute, oui, dans la course à l'Europe, mais quelle Coupe d'Europe? C'est un peu ce qui préoccupe les Marseillais, puisqu'on rappelle que le top 4 paraît inaccessible désormais pour les Marseillais.
La Conférence Cup, là.
À 11 points, voilà, de Monaco. Donc, pour le moment, la cinquième place est qualificative pour la Conference League, donc vraiment la petite Coupe d'Europe, et même d'ailleurs pour les barrages de cette Conference League. Ça veut dire que l'OM se met à supporter Paris, oui, on peut le dire, Paris, Lyon, on peut le dire aussi, et comme gros également, on aurait Monaco qui bat Metz. Je parle des trois qui pourraient gagner la Coupe de France tout en étant dans les quatre premiers de Ligue 1.
Vous avez compris, et libérer la cinquième
place. Ce serait le scénario qui libérerait la cinquième place.
Pour la Ligue Europa.
Et pour la Ligue Europa. Et je vous dis ça parce que on a posé la question cette semaine à Jorge Sampaoli. Bon, il s'attarde pas trop pour le moment sur la cinquième place, la Coupe d'Europe. Lui, il veut créer une identité, un caractère à cette équipe, etc. Donc, il est pas encore dans cette projection. Mais on sait que lui, c'est le genre de coach qui vont jouer à fond la Coupe d'Europe. Il avait très mal vécu avec Séville une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ça avait précipité un petit peu sa fin d'aventure à Séville, même s'il partait après avec la sélection d'Argentine, mais voilà, il l'avait en travers de la gorge. Lui, c'est pas du tout le genre de coach qui va passer son temps à dire non, la priorité c'est la Ligue 1, le pain quotidien, qualifier Ligue des Champions, etc. Non, lui, il y a une compétition, il veut la jouer à fond et il espère au fond de lui que ce sera la Ligue Europa. À l'OM, on serait vexé, pour le dire franchement, on aura un petit sentiment de honte d'être à jamais les premiers à se qualifier en Conference League avec des petites nations. Donc voilà, il y aurait ce sentiment-là. Si c'est la Ligue Europa, surtout si c'est la Ligue Europa, Sampaoli jouera le coup à fond.
Ils vont pas avoir honte de jouer la Coupe d'Europe. Enfin bref. Bon, on verra.
Conférence Ligue. Tu vois ce que je veux dire, c'est un petit sentiment de.
Oui, mais bon,
c'est peut-être. Oui, non, mais elle n'a pas d'histoire parce qu'elle va le débuter, mais au bout d'un moment. Ça serait bien de respecter en France qu'on respecte toutes les Coupes d'Europe.
Merci Jérôme.
Parce que l'Europa League, on ne la respecte pas. Elle est arrivée, on passe pour des peintres.
Pas respecte les Coupes
si Marseille,
aussi,
si Marseille est quand même à jamais les premiers de gagner la Conférence League, ils prendront. Enfin bref. On en reparlera
On n'en est pas encore là.
Merci beaucoup Flo. Pierre-Yves maintenant, puisque Nantes reçoit Lorient dimanche, on voulait absolument en parler parce que Nantes est 18e avec 27 points, Lorient est juste au-dessus, 17e avec 28 points. Donc c'est un choc de bas de tableau très très important, ouais. Pierre-Yves.
Oui, mais enfin c'est quand même le vainqueur de l'équipe qui a éliminé le Barça, faut pas l'oublier, hein.
En plus
Nantes, quand même.
En plus. Donc ça va mieux.
Trêve de plaisanterie. Bah, c'est qu'une défaite sur les 5 derniers matchs, Jérôme, du
oui,
côté
c'est
des
vrai, c'est vrai.
Donc c'est vrai que ça va un petit peu mieux. Antoine Comboiré a quand même réussi à trouver certains leviers, en tout cas, et notamment au niveau de la rigueur. Le petit point négatif, c'est qu'à domicile, la dernière victoire remonte au 18 octobre quand même. Alors est-ce qu'il y a un petit complexe, même s'il n'y a pas les supporters, on sait bien que actuellement c'est un peu différent de jouer à domicile. Mais en tout cas, Antoine Comboiré l'a dit aujourd'hui, c'est une grande finale. Donc il y a quand même une grosse pression sur ce match. Et puis il a mis un petit taquet quand même à ses joueurs en disant si on est à ce classement-là, c'est qu'on n'a pas assez couru depuis le début de la saison. Donc il n'y a pas de raison d'être fatigué après avoir joué contre Paris ou quoi que ce soit. Voilà, il maintient la pression, Antoine Comboiré, tel qu'on le connaît. Les Nantais ont, c'est vrai, un gros coup à jouer, à réussir à repasser devant Lorient et à se maintenir bien dans la bagarre, parce qu'une défaite, ça serait quand même un gros coup sur la tête.
Oui, ça serait un gros coup sur la tête, surtout quand t'as fait l'exploit au parc comme ça, et ça serait un peu bête et complètement con même, excusez-moi, mais de perdre à domicile contre Lorient. Là, on les a vus évoluer, même si le PSG a fait un mauvais match, mais Nantes, ça a été très cohérent de la première à la dernière minute, même s'ils ont souffert en fin de match, mais c'est logique. Et dans cette souffrance, quand t'arrives à gagner comme ça, normalement, ça te donne des ailes. Et le complexe, en effet, que tu peux avoir sur les matchs à domicile, parce que t'as raison de le rappeler, c'est-à-dire de gagner aussi peu de matchs, c'est dernier temps à la Beaujoire, c'est qu'il y a un blocage. Et ce genre d'exploit, dans la lutte pour le maintien, il y a des éléments déclencheurs comme ça qui te font sauter les petits blocages, et peut-être que cette victoire au parc va les servir.
Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci.
Salut Pierre-Yves.
À ce week-end pour le show contre Nantes et Lorient. Merci Djibo. On te retrouve bientôt,
merci,
évidemment,
Djibo,
sur l'antenne d'RMC. Merci Flo.
Ciao les gars.
Un peu loin là, Djibo.
Merci.
Bon week-end.
Bon choix du micro.
Nico,
voilà.
Au rendez-vous
ce week-end. C'est l'apéro à ce temps-là dans le Nord.
C'est l'apéro. Ils sont couchés à ce
temps-là. Je l'imagine avec sa bière de loin comme ça.
Une bière belge, bien évidemment.
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup les gars. À très bientôt. Rendez-vous ce week-end pour la 30e journée de Ligue 1.
Salut Nico. Bonne soirée avec Ben Arfa.
Avec notre multiplex européen à revenir. Allez, à tout de suite.
RMC, Roten Régal. François Pinet, Jérôme Roten.
19h31, toujours dans Roten Régal. Allez, pour la dernière demi-heure. Maintenant, on va s'attaquer au multiplex étranger et revenir sur une affiche de la Ligue des Champions, le tirage entre Liverpool et le Real Madrid avec Fredo.
Effectivement, dans un instant aussi le quiz de Roten Régal. N'oubliez pas 32-16 pour vous inscrire, pour jouer avec Jérôme ou avec Captain. Et puis je vous donne deux petites infos pour RMC, pour écouter Top of the Foot. C'est mardi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète quand même. André-Pierre Gignac, invité exceptionnel de Jean-Louis Tour et de Mohamed Bouafsi et toute l'équipe de Top of the Foot.
Toute la bande,
Adil Rami,
Mathieu Valbuena.
Exactement, ils seront là pour se remémorer les souvenirs de Gignac avec Marseille et avec l'équipe de France. Autre rendez-vous sur RMC.
Eric, il va se régaler là.
Écoute bien, c'est intéressant. RMC accompagne Jeff Rennes-Adélaïde dans les coulisses de sa rééducation. Tu sais qu'il a une grave blessure au genou, le milieu niçois. Et donc, il sera dès demain dans l'intégral foot à 19h45. Et tous les mois, on prendra de ses nouvelles et également sur le site.
C'est bien, ça veut faire du bien. Lui qui vit des moments très compliqués deux fois de suite comme ça. Je lui souhaite encore un bon courage. Je lui ai déjà dit il y a quelques semaines, mais
voilà. Donc on l'écoutera demain, 19h45 avec Benoît Boutron sur RMC. Tout de suite, allez, on y va, le multiplex européen.
RMC, Roten Régal. Le multiplex européen.
Fred Hermel, Julien Laurence sont là. Salut messieurs.
Salut les gars.
Hola chicos.
Salut à tous.
Ah, bonsoir messieurs. C'est magnifique là ce qui nous attend. Fred Hermel contre Julien Laurence. Tu te rends compte, ça va chambrer. Tirage au sort qui nous offre Real Madrid, Liverpool. Alors les dates, c'est le 6 avril pour le match aller à Madrid et le 14 avril pour le match retour.
Peut-être pas. Il y a un vrai doute. Parce que les Anglais, il y a toujours ce problème. Et là, je pense qu'il va falloir vraiment discuter du fait que si le Real Madrid est obligé de délocaliser ce match à cause de la quarantaine imposée aux gens qui viennent d'Angleterre, etc. Là, ça a déjà posé un problème pour l'Atlético, puisque le match aller s'était joué à Bucarest et le match retour c'était déroulé à Londres,
Bridge, ouais, ouais.
À Stamford Bridge, là ça peut vraiment poser un problème. Il faut vraiment voilà, c'est pas possible que les Anglais jouent leur match à domicile chez eux et le match à l'extérieur. Ouais,
commencez pas à trouver des excuses.
Mais tu es le premier à reconnaître.
Ça s'appelle
vraiment un problème.
Non mais bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, on avait déjà parlé avec Fredo dans l'after et j'avais dit que c'est tout à fait injuste que le match retour ait eu lieu à Stamford Bridge, tout à fait, alors que le match aller avait été à plus qu'un reste.
Ça c'est le fair play british, tu vois.
Non mais c'est vrai que la logique c'est qu'il trouve un terrain d'entente là-dessus, en espérant peut-être que ça soit levé la quarantaine.
La logique serait de faire les deux matchs à Bucarest.
Oui, ou alors comme ça, oui, on peut faire ça, bien sûr.
Mais il y a quand même, moi, après, je vous ai peut-être certainement pas de nouvelles de ce côté-là, mais vous avez pas d'infos comme quoi la quarantaine pourrait être levée pour recevoir les Anglais.
La situation épidémique en Espagne est en train de s'améliorer un tout petit peu.
Ouais, donc on peut espérer.
C'est pas pour faire venir les Anglais facilement. Enfin voilà,
Et leur variant.
Julien.
Exactement.
Nous aussi, ça s'améliore un petit peu doucement, notamment la campagne de vaccination, qui est très efficace, mais c'est vrai qu'il y a encore un petit peu de temps. C'est ça qui est bien, c'est pas comme si le match avait eu lieu la semaine prochaine. Il y a encore un petit peu de temps et voilà, il faut espérer qu'on puisse avoir ces deux matchs-là dans les stades où ils doivent se jouer et pas sur terrain.
Alors, ma question pour vous, messieurs, bien sûr, qui a fait la bonne affaire entre le Real Madrid et Liverpool?
Je vais me permettre de dire le Real Madrid, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la réaction en Espagne. Parce que le tirage au sort est quand même intéressant et je vais vous faire un peu de culture espagnole. Les journaux parlaient, le Real a esquivé les trois cocos. Alors les cocos, le coco, c'est dans le langage enfantin espagnol, c'est le l'ogre méchant, voilà, celui sur lequel il faut pas tomber. Il y avait trois cocos, le PSG, Manchester City et le Bayern. Et ils sont de l'autre côté du tableau. Ce qui fait que le Real Madrid... à Liverpool en quart, s'il y a une qualification, c'est Porto ou Chelsea. Donc, on peut pas dire qu'ils soient mécontents, d'autant plus que c'est le remake de la finale de 2018. On s'en souvient, victoire 3-1 des madrilènes. C'est la dernière fois que le Real Madrid a gagné avec des champions. Ça reste, c'est une...
blessure de Ramos avec Salah.
Exactement, voilà. Donc Salah, il sait ce qu'il faut faire. Il aura un vrai défenseur face à lui. et le Real Madrid se dit... Enfin, l'analyse que je fais, c'est que le Real Madrid tombe contre Porto ou Dortmund, il y a toujours ce risque d'un petit peu de suffisance ou de dire oui, bon, voilà.
Et c'est supérieur. C'est contre,
dans ces genres de matchs, ouais, ils se sentent supérieurs et ce genre de matchs sont souvent des matchs de piège. Là, même si c'est pas un Liverpool en pleine forme, c'est Liverpool. Donc, en gros, c'est une super affiche. On sait qu'ils vont être très bien préparés dans leur tête et dans la concentration qu'il faut, mais c'est pas le Liverpool de la finale de 2018, donc et encore moins celle de 2019. Donc voilà, c'est un tirage qui plaît beaucoup à Madrid, je dirais même peut-être même un peu trop.
Captain, tu voulais dire quelque chose?
Oui. Non, et Julien est un Liverpool qui malheureusement pour lui ne récupérera pratiquement aucun de ses défenseurs qui sont sur le flanc actuellement.
C'est vrai, Captain, tout à fait. Pas de Van Dijk, pas de Matip, pas de Gomez, pas du tout, même pour le prochain tour, même pas pour une potentielle demi-finale ou une potentielle finale non plus. Ouais. Donc il faudra faire sans. Une équipe de Liverpool qui finalement a deux visages. Hein. Elle est très bonne plutôt en Ligue des Champions. On l'a vu contre Leipzig, même si au match aller elle a bénéficié de deux grosses erreurs, elle a quand même été solide. Au match retour, elle a été très intéressante. Par moment, j'ai trouvé. En championnat, c'est beaucoup plus difficile, notamment à domicile. Ça, on le sait, on en a beaucoup parlé déjà. Mais elle est convalescente, mais elle est aussi surprenante parfois, notamment en Ligue des Champions. Donc je pense que eux sont plutôt confiants avec ce tirage. Ils voulaient surtout éviter, on n'a pas l'équivalent de Cocos en anglais, mais ils voulaient éviter le PSG, Manchester City et le Bayern aussi. Donc à ce niveau-là, ça s'est plutôt réussi. Et puis pour eux, c'est l'inverse de ce que Fred vient de dire sur la finale de 2018. C'est la revanche, c'est l'heure de la revanche. C'est effectivement tous ces mauvais souvenirs entre la blessure de Salah, le cauchemar de Karius. La défaite, bien sûr, qui a fait très très mal aussi, même si un an plus tard, ils sont allés la chercher. Mais c'est vrai que là, ce serait l'occasion. On a eu des très beaux matchs dans l'histoire de ces deux clubs récemment. Un 4-0, je me rappelle, d'une victoire de Liverpool. J'ai vu aussi un 3-0 à Anfield pour le Real Madrid. Donc voilà, il y a une belle histoire européenne commune. Et c'est vrai que pour Liverpool et les supporters, c'est l'occasion aussi de cette revanche de 2018. Et puis après, si on regarde le reste du... du tableau. Ça pourrait être aussi une demi-finale contre Chelsea, qui rappellerait celle de 2005, parce que la finale avait suivi aussi à Istanbul. Donc il y a pas mal aussi de petits clins d'œil du destin dans ce tirage-là, qui plaît pas mal aux supporters de Liverpool.
Jérôme, c'est dur de pronostiquer franchement cette affiche, parce qu'il y a des équipes comme le Real et Liverpool qui sont en difficulté dans leur championnat, et puis parfois ils sont capables quand même de faire des très bons matchs. On voit un super Benzema actuellement, par exemple, du côté du Real.
Non, c'est dur de pronostiquer. Ce qui est sûr, c'est que j'en suis quasiment certain, c'est que tous les joueurs qui seront sur la pelouse seront en mode Ligue des Champions. C'est des grands joueurs. La plupart ont gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. C'est pas par hasard. Et d'un côté comme de l'autre, ils ont vraiment des forces intéressantes, et on risque de voir deux belles confrontations. Ouais. Oui. En tout cas, on va se régaler sur les deux matchs. Et en espérant, et Julien le disait, mais comme Fred, que ce match arrive à se jouer à Madrid, le premier, et le deuxième à Liverpool.
À Liverpool. Alors, je sais pas ce qu'en pense Julien, mais vu de Madrid, il y a un respect énorme pour Liverpool. C'est la même caste. C'est-à-dire, c'est l'aristocratie du football européen. C'est-à-dire qu'on se met pas des bâtons dans les roues. Voilà, on fait partie du même niveau, en fait. Voilà. Il y a un respect naturel, qui fait que je pense qu'il y aura un arrangement pour cette histoire de match aller-retour. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais je pense que du côté de l'Angleterre, de Liverpool, il y a ce respect pour le Real Madrid, quoi. Donc,
Oui, tout à fait. Même si pour certains supporters, et tu le sais, l'incident entre Sergio Ramos et Salah dans la finale a laissé pas mal de frustration. Voilà, personne pourra jamais dire que c'était fait exprès ou pas fait exprès, peu importe d'ailleurs, mais c'est vrai que les supporters l'ont eu un petit peu en travers de la gorge pendant longtemps. Et encore une fois, même si c'est l'heure de la revanche, tout se passera effectivement dans le plus grand des respects entre les deux clubs, et bon, ouais. Il n'y aura pas de supporters, mais entre les supporters aussi.
Alors Julien, tu gardes la main pour la suite quand même du tirage, parce que il n'y a plus qu'un seul club espagnol, mais il y a deux autres.
Mais Fred pourra choisir un de mes trois anglais en demi-finale, c'est ça qui est bien, Fred. Mais peut-être Manchester City, ils ont pas mal d'espagnols, tu vois, pour les demi-finales, tu pourras choisir un de mes trois.
Si tu veux, on peut parler du favori aussi de la Ligue Europa qui s'appelle Villarreal, qui lui a un boulevard jusqu'à la finale.
Dans un instant, on en parlera peut-être dans un instant, je vous donnerai le tirage de la Ligue Europa, mais Chelsea-Porto avec le retour à Stamford Bridge, donc, et City qui recevra Dortmund à l'aller. Moi, j'ai l'impression que cette équipe de Chelsea, je ne sais pas ce que t'en penses, Jérôme et Julien, il y a une sorte de hype autour de Chelsea actuellement, quand ils ont sorti à l'Atlético de Madrid, avec l'arrivée de Tourelle, et un truc qui se passe dans cette équipe, dans ce club.
Ouais, tactiquement, il se passe des choses, c'est cohérent ce qu'il met en place, et ça a vite pris forme. Je parle sous le contrôle de Julien aussi, mais c'est ce qu'on constate. On sent que les joueurs s'épanouissent, s'éclatent dans ce système-là. Après, ce n'est pas encore génial au niveau de la créativité. Dans le jeu, quand ils ont le ballon, il y a beaucoup de déchets dans les 20 derniers mètres adverses. Ils ont du mal par moment à se procurer beaucoup d'occasions. Mais le match contre l'Atlético Madrid, ils étaient quand même en progression. Hein. Des joueurs comme Ziyech, comme Havertz, ont fait peut-être leur meilleur match, et pas peut-être leur meilleur match sous les couleurs de Chelsea, et peut-être au meilleur des moments. Donc ça va leur donner de la force pour, à mon avis, passer ce tour contre Porto, parce que je les sens bien supérieurs. Ouais.
Julien ?
C'est vrai, on a commenté le match ensemble avec Jérôme et Jeannot, et c'est vrai que c'était par moments assez impressionnant la façon dont ils ont joué. Après, je pense que Thomas Tuchel a emprunté à Didier Deschamps son animal favori pour le tirage, hein, parce que là, c'est... Ah, maintenant, tout lui réussit depuis qu'il est arrivé en Angleterre, tout lui réussit
sur le terrain, en dehors du terrain, avec le tirage.
Ouais, bah la saison dernière surtout. D'ailleurs, depuis qu'il est plus là, le tirage c'était plus du tout le même aujourd'hui. Mais tout lui réussit, et c'est vrai que même si Porto, ce sera aussi compliqué parce qu'ils défendent tellement bien. C'est une équipe qui a un tel état d'esprit collectif et tout ça. C'est quand même le tirage qu'il voulait. Il voulait éviter surtout le PSG. Lui, il nous l'avait dit après le match de mercredi soir, parce que le PSG émotionnellement, je pense que ça aurait été compliqué aussi pour lui. Donc là. C'est vraiment très positif pour Chelsea, même s'ils seront favoris. Et vu la forme d'N'Golo Kanté en ce moment aussi, et de certains autres, vrai qu'ils peuvent aborder cette rencontre aussi avec pas mal de confiance.
Puis il y aura aussi un duel entre vous, hein, Fred et Julien, en Ligue Europa, donc on en parlait. Il y aura Grenade-Manchester United. Voilà, ça c'est le duel entre vous deux.
C'est David contre Goliath, c'est ça. C'est le petit pousset contre le géant.
Plutôt sympa à suivre, hein, j'imagine, Fred. Grenade, c'est quand même à regarder, une équipe à regarder.
Oui, c'est super. C'est une équipe qui joue un football magnifique. C'est une équipe qui... à des joueurs par exemple d'expérience comme Roberto Soldado, hein, qu'on se souvient du Real, de Valence, etc.
Voilà, c'est Maxime Gonallon aussi, le Français.
Maxime Gonallon, bien sûr.
Vous nous avez fait rêver.
C'est une équipe qui était promue en Ligue 1 la saison dernière. Mais... Non, mais vous imaginez,
pour lui laisser un peu d'espoir.
La saison dernière,
après, si il y a chez Averts, c'est pareil.
Promu la Liga en Liga la saison dernière, et là ils sont en quart de finale de la Ligue Europa contre Manchester United. C'est que du bonus.
Ça va être le Brésil.
Et ils ont des sous.
Ils ont des sous. Ah oui, ils ont un propriétaire chinois.
Ouais, mais pas un chinois qui.
Pas
qui
un chinois, pas le chinois de Valence.
Non, voilà. À Valence, c'est un Singapour, c'est pas loin. Mais c'est-à-dire que c'est un club dont le propriétaire extérieur, lointain, laisse bosser les Espagnols sur place. Mais ça marche. Et
ouais. Donc Ronan, Manchester United, un des duels, les autres matchs, Arsenal, ça te concerne aussi Julien contre le Slavia Prague, et puis ensuite Ajax, AS Roma.
Pas malheureux Arsenal, allez quand même.
Et Dynamo pas malheureux, Zagreb, attention. Villarreal.
Ouais, c'est compliqué
attention
à jouer,
quand même,
hein,
Jean-Michel.
Je sais que l'Europa League ne te plaît pas, Jean-Michel, et que tu regardes pas les matchs. Quand j'étais gamin, ou même junior, puisque c'était l'équipe de France junior.
Il y a longtemps.
Ouais, je te signale que les grands footballeurs, les bons footballeurs de l'époque arrivaient tous de Tchécoslovaquie. Mmh, et c'est vrai que c'est une école de football remarquable. Tu as raison, le Sparta de Prague, le Slavia de Prague, avec des garçons qui s'appelaient, et qui a eu un ballon d'or, je crois, qui s'appelait Mazopust. C'est évidemment, tu étais un projet affectif à ce moment-là.
Ouais, mais j'ai une question, Jean-Michel. Jacques Santini, il avait un peu de sang russe, tchécoslovaque.
Non, tchèque, sa façon de jouer, ça se voyait. Ou slovaque, je sais pas, je pense que c'était peut-être côté de Bratislava, peut-être.
Bah, quand il parlait, ça ressemblait à du slovaque par moment.
Voilà, c'est ça. Y est. On a réussi à mettre Santini dans cette
groupe. Après, c'est extraordinaire. Après Calandro, Santini, merci. On se fait des amis dans cette émission.
Non, je parle de ses causeries, moi. C'est l'expérience qui parle.
On se fait plein d'amis dans l'émission, Jérôme.
Mais on l'adore, Jaco.
On l'embrasse, bien sûr.
Ah oui, en plus.
On embrasse Fred, on embrasse Julia. Merci beaucoup, messieurs.
Merci, les amis.
Salut, les gars. Merci.
À très bientôt. Donc, pour ce Real Madrid-Liverpool, très alléchant.
Grenade, là, on a envie de les voir.
Et là, restez avec nous parce qu'il va y avoir des questions. Alors, pas sur Grenade.
Hein, le Grenade Elche de ce week-end, je le regarde.
Mais il y a un quiz tout de suite avec des questions totalement abordables. Donc, n'hésitez pas, 32-16 pour jouer avec Jérôme ou pour essayer de faire gagner Captain quand même. Ça serait l'objectif. 4 défaites de suite. Est-ce que ça va changer? On attend ça.
Et bonne dynamique.
On arrive tout de suite. À tout.
RMC, Roten Régal. François Pinet, Jérôme Rotten.
19h49, allez, on est dans les 10 dernières minutes de Rotten Régal. Et 10 dernières minutes, ça veut dire le quiz,
ça
François.
Ça va être énorme dans un instant. On prend la boucherie. Pierre, juste avant, on va rejoindre Flo Germain qu'on a eu tout à l'heure parce qu'il a une info à nous livrer, Flo.
Oui, le multiplex n'est jamais terminé, Jérôme, tu le sais très bien. Oui, non, parce qu'on parlait de la contrariété Camara suspendue et il y en a une autre de dernière minute, c'est Cuisance qui s'est blessé. Les premiers échos qu'on a, ce serait la cheville. Alors je cherche à savoir un petit peu si c'est sérieux ou si c'est juste une petite entorse. En tout cas, Cuisance n'est pas dans le groupe, donc les nœuds au cerveau se confirment pour Sampaoli qui va devoir trouver quelqu'un d'autre au milieu de terrain. Gay probablement, peut-être que Ncham aura son mot à dire dans ce milieu de terrain, mais Camara out et donc Cuisance touché à l'entraînement et qui n'est pas dans le groupe pour Nice.
Et rapidement Aurélien, ça fait combien la Chambly Ajaccio?
Surprise, 0-0 à la mi-temps, mais ça a un peu poussé quand même côté Ajaccio. Gaëtan Courté a marqué un but refusé pour hors-jeu.
30e journée de Ligue 2, on suit ça évidemment sur RMC.
Ouais, et embrasse Jean-Louis, il doit être dans les tribunes.
C'est parti pour le quiz.
RMC, Roten Régal.
Qu'est-ce que vous me racontez comme connerie là encore?
Allez, je lui donne 2-2, il a raison.
Donc il a des questions, il a les mauvaises réponses.
Le quiz.
Ah, ça c'était Jean-Louis, ça devait pas être moi.
Alors François, tu veux que je te raconte l'histoire?
Allez, très rapidement. Vas-y.
C'est qu'il y avait une mauvaise question, il y avait une question avec une mauvaise réponse. Et tu sais qui est-ce qui avait la mauvaise réponse?
Ah, c'est toi.
Non, moi j'avais la bonne réponse.
Ouais.
Puisque vous m'avez parlé de Neuvegue alors que le petit poussé c'était le club franciscain.
Ah oui,
mais
c'est
c'était
vrai.
Jérôme Rotel qui avait la même mauvaise réponse. J'ai des doutes, j'ai des doutes.
Il
avait même la mauvaise réponse.
Alors ça c'est avec Jean-Louis, mais avec moi, c'est impossible. Je suis un
auditeur.
On accueille Amaury. Salut Amaury.
Salut Amaury.
Bonsoir.
Supporter de Lyon, donc tu vas être avec Captain, j'imagine. Tu vas être avec qui?
Je pense avec Jérôme.
Ouais, t'as bien raison, Amaury.
Et Pierre est avec nous. Salut Pierre.
Bonsoir.
Salut Pierre.
Donc tu es avec Captain, ok?
Ouais, avec la descente de Saint-Etienne.
Ah ouais. Ah, tu peux
avec
pas te chambrer,
contre moi, t'arrêtes pas de me crépir, Pierre. Et puis, il est extraordinaire. Et Pierre, comme j'ai un décalage que toi tu l'as pas, je compte sur toi. Ouais. Hein.
On y va.
Allez, Pierre.
Allez.
Le Minitel.
Allez, vas-y, Pierre. Allez, vas-y.
On y va. Ce soir, 21h. Ce soir, les amis, à 21h, Saint-Etienne-Monaco, c'est un duel parfait pour Roten Régal.
Ouais,
Captain, pardon, contre Jérôme. On va voir si vous connaissez bien vos équipes de cœur. Qui est le capitaine de Monaco?
De Monaco.
Ben Yedder. Ben Yedder, bonne réponse de Pierre. Qui est le meilleur buteur de Saint-Etienne cette saison?
Bouanga.
Bouanga, bonne réponse, Captain.
Bah, c'est moi, non?
Non, c'est Captain.
Non, mais il y a plus de... Bon,
okay. On enchaîne. Entre Saint-Etienne et Monaco, qui a gagné le plus de Coupe de France?
Saint-Etienne,
bonne réponse, Jérôme.
Bien sûr.
C'est Jérôme.
Ah non,
mais si, c'est moi, arrête.
C'est Jérôme. Ah oui, si, c'est Jérôme. 6 victoires.
Comment moi, je ne sais pas que Saint-Etienne a gagné plus de Coupe de France que Monaco.
Il a été moins réactif, c'est l'âge.
5 victoires pour Monaco en Coupe de France, 6 pour Saint-Etienne. La dernière victoire de Monaco, d'ailleurs, en Coupe, c'était en 91. Qui était le coach à l'époque de Monaco?
Wenger.
Wenger, bonne réponse. Bien joué. 2 partout. Arsène Wenger. Ah. Puisque je veux pas faire de jaloux, dernière victoire de Saint-Etienne en Coupe de France, c'était en 77.
Contre Rennes.
C'était contre qui?
Ah non.
Non,
77, c'était contre... Non. 77, R de Platini. Oh, c'est pas possible.
Reims. Oui, 77. Bonne réponse.
Un but de Merchandier.
Bonne réponse. Reims,
ouais, Merchandier qui marque.
Oui, mais c'était Jérôme qui a été le plus rapide. Effectivement.
Ouais, mais ça, c'est pas
une victoire de Buzyn.
Antoine, arrête de souffler à l'autre, là.
Mais non, il est avec...
Qui, toi? Moi?
Non, Antoine, il a dit. Antoine, il est...
Ah oui, j'ai eu peur. Non, Antoine, il est pas là. Ouais. Antoine, il est en grande discussion. Il est
3-2 pour moi.
3-2 pour Jérôme.
Pour nous.
Et pour Amaury. Amaury, tu peux aider Jérôme aussi.
Vas-y, Amaury. Hein.
Ouais, non, mais là, en même temps, le sujet du quiz, il ne m'avantage pas des matchs.
Vous inquiétez pas, il va y avoir des réponses aussi pour les plus jeunes. On va parler de Claude Puel quand même, entraîneur des Verts.
Bien sûr.
Parce qu'il a fait toute sa carrière de joueur à Monaco avec 602 matchs pro. C'est le deuxième joueur le plus capé dans l'histoire du club. Qui est le premier d'ailleurs?
Etori,
bonne réponse, ça c'est Captain.
Oh là là là.
755 matchs. En tant que coach, Puel a connu 2 expériences à l'étranger, à Leicester et à
Southampton.
Bonne réponse de Jérôme, il est rapide.
J'allais le dire, mais il est. Oui, 4-3. Mais bon,
oui, il est rapide. Toujours concernant Claude Puel, qui a dit, c'était cette semaine, Puel a changé beaucoup de choses cette année, je suis surpris qu'il ait toujours autant de pouvoir à Saint-Etienne malgré les résultats.
Berich.
Tout ce que j'ai expérimenté à l'entraînement, il donnait l'impression d'être sans émotion. Il arriva au début des saisons, des séances, comme un dictateur en nous disant de faire ci et ça.
Mvilla.
Sans jamais sourire. Bonne réponse. Oui. Yann Mvilla.
Mvilla.
Exactement. Bonne réponse de Jérôme. Aujourd'hui, à l'Olympiakos, il parlait de son passage à Saint-Etienne. 5-3, exactement, pour Jérôme.
Non, 5-3.
À sa capitaine. Amaury et Pierre. C'est la charade. Ouais. Là, faut aider Jérôme parce qu'il n'aime pas ça.
Ah non, là,
mais c'est Amaury et Pierre ou c'est nous?
C'est vous.
Tout le monde.
Vous aussi. C'est une charade. Mon premier ne dit pas non. Mon deuxième peut être simple,
Wissam Ben Yedder,
double ou superposé. Mon troisième est un clown.
Willy Sagnol,
bonne réponse. C'est Amaury. Bravo.
Jamais de la vie, on le confirme.
Willy Sagnol, exactement.
Bien joué, Julie. Julie a confirmé. Tu vas quand même pas insulter Julie, quand même.
Mon quatrième, un petit coup alcoolisé, la gnôle. Et il a joué à Saint-Etienne et à Monaco.
Bien joué, Amaury.
Exactement.
J'ai donné la réponse avant la fin de la question.
Bah, mais toi, le problème, c'est que tu réfléchis à voix haute.
Allez, reste 2 minutes, c'est pas terminé. Bon, un autre membre de la Dream Team RMC est passé par les deux clubs, Saint-Etienne et Monaco. Qui ça?
Hein?
Non, un autre membre, un autre consultant.
Un Saint-Etienne,
passé
Monaco.
À Saint-Etienne et à Monaco.
Courbis.
Non.
Kevin Diaz.
Non, il fait de temps en temps l'after. Il commente. Piquion. Ken Piquion. C'est Amaury. C'est Pierre. Pierre, bonne réponse. Pierre, Fred Piquion. Exactement. 6-4. Oula, c'est chaud. Attention, voilà. L'affiche du week-end, c'est Lyon-PSG. Il faut se souvenir du match aller. Qui était le buteur?
Lyon-PSG.
Kadewere, bonne réponse, Captain.
Oh là 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 là. Ouais.
6-5.
Ouf. Non, 6-6.
Non, 6-5.
Non, je crois que c'est 6-5.
6-5.
6-6.
6-5.
6-5, c'est chaud. 6-5, c'est chaud. 6-6.
Non, 6-4.
6-6, oui, 6-7, c'est chaud. 6-7, c'est chaud. 6-6. Ah ben, extraordinaire. Et l'autre, il dit pas, mot.
Pardon, 6 partout. Attention. Kadewere, puisqu'on en parle, il est de quelle nationalité?
Zimbabwe.
Oh, joli, Capitaine. Il passe devant.
Pas niqué sur la
7-6. C'est pas fini. Catégorie toujours. Il jouait où avant d'arriver à Lyon?
À Louvre.
Le Havre. Bonne merci. Réponse de Jérôme. Oh là là.
C'est moi. Arrête, c'est moi.
Si, si, c'est Jérôme. Là, je l'ai entendu.
Allez, balle de match.
Balle de match.
Oh là. Non.
Balle de match.
Non.
Balle de match.
Non, il n'y a pas de match. Non, il n'y a pas de balle de match.
Mais si, il y a balle de match.
Non, balle de match.
Non.
Mais Julie a confirmé.
Capitaine, c'est comme ça.
Arrête. Tu vas pas insulter.
Mais le Havre, mais c'est
là
incroyable.
Là, deux matchs. C'est parti. Elle est très simple. Amaury Pierre, elle est très simple.
Allez.
Ligue Europa hier, qui est le seul joueur français à avoir marqué?
Pogba.
Qui a dit Pogba?
Amaury.
C'est Amaury.
Ouais.
Victoire d'Amaury avec Jérôme.
Victoire écrasante.
Paul Pop.
Oh, regarde, il déchire son papier, regarde.
Capitaine,
bien joué Amaury, bravo.
Vous êtes des escrocs, des bandits.
La cinquième, la manita. Cinq.
On peut cinq.
Ah non, mais le coup du Havre.
Le
coup du Havre et de la charade.
Alors écoute,
vous êtes insupportable. Non,
je joue plus. Privé.
Je joue plus avec vous. Vous êtes chier. Je joue plus avec vous. Allez,
tu réécouteras.
Bon week-end.
Bon week-end,
Jean-Michel. Bon appétit.
Bravo Amaury. Merci beaucoup Pierre. On passe ta main, Christophe.
Il va vous aider. Vous l'énervez pour le week-end.
Il va manger du ragonda.
Après, c'est sa femme qui doit le supporter pendant 48 heures.
Il
est pas compte du truc. Là.
Il est fou.
Non, mais là, il a perdu.
Il est fou. Moi, il me fait peur. Il a peur à réagir comme ça. Il me fait peur.
Christophe, l'intégrale.
Eh ben, Saint-Etienne Monaco, évidemment, à 21h. C'est l'ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Mais il y aura plein de choses avant, puisqu'on va s'intéresser à tous les événements qui auront lieu ce week-end. Milan-San Remo, demain, Julien Lafilippe peut-il remporter la course? Nous nous intéresserons également aux finales de Coupe du Monde de ski avec Alexis Peintureau qui est toujours en tête pour décrocher le gros globe. France-Galles, ce sera demain soir le match très important pour l'équipe de France. Et puis on s'intéressera également au tirage au sort de la Ligue des Champions, vous en avez parlé.
Ouais.
PSG, Bayern. Ouais,
t'as juste à reprendre ce que j'ai dit.
Voilà. On va faire un petit point de montage.
Non, mais ça sert à rien de faire intervenir les consultants.
C'est parfait.
Exactement.
Merci. Allez, bon courage. À tout de suite.
Merci François.
Il est parti,
c'est l'heure d'aller manger. Merci François, bravo.
On se régale la semaine prochaine.
Captain Régal, comme tous les vendredis la semaine prochaine.
Dès lundi, bon week-end à
vous. Vous embrassez.